Bonjour à tous, bienvenue à Deux filles en liberté. Je suis Liberty Bell et voici ma chère Texane. Bonjour.
Salut, ça va bien?
Mais oui, bon vendredi.
On n'était pas là la semaine dernière parce que Madame Belle a décidé d'aller faire un tour en Nouvelle-Orléans.
Ben oui, c'est un classique chez nous. Depuis qu'on est parti de la Nouvelle-Orléans, qu'on s'est ramassé à Little Rock, Arkansas, tous les mardis gras, ben il faut inévitablement aller voir les festivités du Mardi Gras. Ça, c'est une exigence de mon conjoint. Puis c'est ça, jeudi passé, on est parti. Puis on y va en auto. C'est quand même 7 heures de route, fait que ça. Puis c'est assez difficile pour toi et moi de faire une émission en pleine route ou en plein à l'extérieur de la maison. Fait qu'on a pris un petit break. Mais moi, ce que je voulais dire, là, c'est par rapport à mon voyage. Maintenant, là, c'est ça que j'ai réalisé. C'est que maintenant, ma vie, là, quand je dis je suis une libertarienne, c'est que je suis vraiment libertarienne dans le sens que maintenant, chaque chose que j'observe, j'amène toujours comme une vision libertarienne. À chaque fois que j'écoute un film, c'est comme, c'est inévitable, s'il y a des aspects libertariens, je vais le ressortir. S'il y a des choses qui vont contre la vision libertarienne, je vais le mentionner, le système, tout ça. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que dimanche dernier, j'étais en plein cœur du quartier français. Puis j'étais avec la famille, des amis. Puis non, on n'était pas sur Bourbon Street en train de montrer des choses inappropriées. Mais on était autour. Puis je sais pas si tu connais un peu le quartier français, Texane, t'es déjà allée?
Oh oui, moi je suis allée souvent, oui.
Mais c'est vraiment, comme on dit, le quartier français, c'est des rues très perpendiculaires, très carrées, tout ça. Puis c'est un petit monde vraiment à part de la Nouvelle-Orléans. Puis moi, j'ai réalisé que c'était vraiment comme un micro-système de la société libertarienne que je vois. C'était tellement bizarre parce que il y avait de toutes les races, de tous les genres d'individus et c'était vraiment fascinant de voir comment c'était. Moi, juste, j'étais sur Royal. C'est une rue qui est un peu plus proche de la rivière après Bourbon Street. Bourbon Street, c'était la décadence. Fait qu'on n'est pas allé là. Avec les enfants, on s'est dit c'est pas trop approprié. Mais Royal, c'est un peu plus festif. C'était plus amusement et tout ça. Puis t'avais de tous les types d'individus que tu peux pas t'imaginer. T'avais le monsieur snob qui venait avec sa femme, là, puis qui était avec son gros cigare, qui fumait en plein milieu de la rue. À côté, t'avais des espèces de nomades, vraiment littéralement des gens là qui vivent dans la rue, mais pas des sans-abri, c'est des gens qui sont sans demeure, qui vagabondent, puis qui font des coups de des spectacles et des choses comme ça. Après, t'avais des gens de toutes les races, des Chinois, des Noirs, des Blancs. J'ai même vu des musulmans, des femmes avec leur chador. J'ai vu trois femmes qui se promenaient, tu peux-tu t'imaginer, là? Puis, j'ai vu de tout. Et moi, ce qui m'a fascinée, c'était de voir l'harmonie qu'il y avait. De voir que les gens, là, vraiment le principe « vivre et laisser vivre » était implanté sans que personne, littéralement, se fasse dire quoi faire.
Parce qu'en plus, là-bas, tu sais, t'as une certaine liberté par rapport aux boissons alcoolisées. Oui. En tout cas, je me rappelle dans le temps, c'est que tu peux te promener avec ta bière dans la rue, absolument oui. Aucun problème. C'est sur la rue même, c'est là que tu vas t'acheter des drinks. Tu vas besoin d'aller dans un établissement, t'as des espèces de... Moi, j'appelais ça des... comment on appelle?
Des drive-through, en fait. Là, c'est comme des trous, là.
Ça ressemble à des buanderies. Non, mais c'est parce que moi, je trouvais ça drôle. C'est parce que c'est comme, tu sais, c'est comme fait en rond, là, comme des machines à laver. Là, oui. Puis à l'intérieur, tu as tous tes genres de
des
drinks.
Slush.
C'est des slush alcoolisés, là, on s'entend. Puis, tu sais, c'est ça, rue. Tu peux t'en prendre une, let's go, tu t'en vas, tu n'as pas besoin.
Ben, en fait, tu savais, là, mais je sais pas, ça s'appelle les Daiquiri. Ça, c'est les magasins Daiquiri. Puis eux autres, là, même quand tu vas dans la Nouvelle-Orléans ou un peu à l'extérieur, ils ont des stations un peu comme un Starbucks. Où est-ce qu'ils ont des drive-thru? Tu peux commander des drinks alcoolisés à partir de ta voiture. Moi, la première fois que j'avais vu ça, je dis, mais non, mais c'est débile, là, tu viens chercher. Puis, pour comme s'assurer que tu ne consommes pas, ils laissent le petit morceau de paille sur le dessus, puis c'est comme, ils te font confiance. C'est comme, mais c'est vraiment spécial parce que de l'autre côté, tu avais les gens puritains. Puis ça, c'est un classique en Nouvelle-Orléans. Puis si vous voyez des photos sur le Bourbon Street, vous allez toujours voir à chaque coin névralgiques comme tel, les endroits névralgiques du Bourbon Street, t'as toujours des gens qui sont avec leur croix puis leur message de Jésus qui va revenir sur terre et tout ça, le jugement dernier s'en vient et tout ça. Et ces gens-là sont un peu partout justement, ils étaient juste en face de la cathédrale. Puis en face de la cathédrale, t'avais genre ce groupe de Christians qui font un peu la morale, qui font... tu sais, ils te regardent pas, ils sont sympathiques par contre, parce que ils donnent des petits pamphlets, puis ils te font comme dire « Ah, il faut que tu te repens, faut pas que tu fasses des péchés. » Puis juste en face, ça fait ces fameux nomades qui tiraient des cartes, puis qui faisaient des spectacles pour amuser les gens. Fait que c'est comme je te dis, là, moi, je me suis arrêtée, puis je regardais mon mari, puis j'ai dit « Hey, on dirait vraiment un monde... » libertarien, mais...
Ben, c'est quasiment... Tu dis libertarien, mais c'est quasiment l'anarchie. Sauf oui. que ça fonctionne très bien. Ça veut dire que les gens se respectent mutuellement. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, il se passe des trucs, puis il y a des gens qui vont vraiment là, l'échapper. Oui. Mais ça arrive... Mais au nombre de personnes qu'il y a là-bas, OK? Puis au nombre d'incidents qui sont reportés, je veux dire, c'est quand même très bien, là. En plus, c'est des gens qui ont pris de la boisson, c'est oui. des gens qui viennent de toutes sortes de milieux, comme tu dis. Fait que, tu sais, je sais pas, mais moi, je trouve ça... J'ai toujours adoré la Nouvelle-Orléans, j'ai toujours adoré le quartier français, l'espèce de... Tu vas
laisser
là-bas,
le bon temps rouler, c'est l'expression, et ouais. c'est vraiment, c'est vivre et laisser vivre, ne vous tracassez pas. Puis justement, les gens, par contre, moi, tu me parlais d'anarchie, c'est vrai qu'il y a un milieu, mais il y a quand même une structure qui est là. Puis c'est pour ça, quand je parle, souvent, on fait la distinction entre les libertariens minarchistes puis les anarcho-capitalistes. Souvent, là, moi, je vais plus vers côté minarchiste parce que oui, il y a une structure quand même, parce que oui, il y a de la police. Oui, oui, vois-tu? Puis les policiers, c'est pas c'est pas sévère, mais ils sont quand même, ils sont en costume, bon, ils ont leurs armes et tout ça, ils sont sans chevaux généralement, ils se promènent dans le quartier avec leurs chevaux et il y a toujours une forme d'ordre qui est établie. S'il y a des gens qui l'échappent, ouais. ben, t'as le bouncer qui va être là pour kicker out la personne, t'as toujours, il y a
une forme de, oui, mais c'est ça, il y a une forme de règlement, c'est ça, mais je veux dire, il y a personne qui dirige là comme en haut. Puis tu parlais des policiers qui étaient quand même assez lousses, je me rappelle.
Oui.
Parce que tu le sais, l'histoire de des colliers, là, c'est que tu lèves ton gilet puis que tu montes tes seins, tu oui. vas recevoir des colliers, on va te lancer des colliers. Puis c'est très accepté, là, je veux dire.
Tout à fait. Bon. Ça se passe juste sur Bourbon en passant. Puis c'est pour ça que c'est ouais. la règle. C'est comme, c'est pas, c'est parce que tu vas te promener, comme je dis, nous, on était sur Royal, puis ils lançaient des beads. Puis oui, il y en avait deux, trois qui étaient un petit peu réchauffés, qui demandaient aux filles de montrer, mais c'était comme, non, tu vas de l'autre bord. C'est comme s'il y a une règle établie, comme quoi c'est toléré seulement sur une rue. Puis c'est vraiment la décadence, c'est ça.
Sauf que si tu voyais... Je sais pas si t'as déjà vu ça, là. Un gars essayer de faire juste baisser ses culottes.
Oh,
et
mon Dieu,
la
non.
police arrive, c'est pas long.
Non, c'est ça. Ça, c'est intolérable. C'est ça. C'est le côté, ce côté-là un peu macho de dire, oui, la femme peut montrer, mais, puis encore, une femme peut pas baisser le bas, elle va monter non. le haut. Mais il y a une rôle, c'est une des règles établies qui sont pas formel. Il y a personne qui est arrivé puis qui a dit c'est de même que ça marche. Vous avez la structure rigide que vous devez suivre. Non, non, non. Sauf que oui, il y a des choses qui sont acceptables. Non, il y a des choses qui sont pas acceptables. Oui, il y a des gens qui portent des jugements parce que ça, c'est une autre chose. Vois-tu, nous, on était sur Royal. Puis, écoute, quand on va en Nouvelle-Orléans, on est comme des gens de la place. On connaît les raccoins, on sait où aller, où pas aller, puis tout ça. Puis, moi, je me promenais avec nos deux carrosses, j'avais mon bébé et le moyen là, qui est encore, il se fatigue, fait qu'on avait le carrosse pour la petite poussette pour lui. Trois hommes un peu éméchés, puis « J'amènerai jamais mes enfants sur cette rue-là ». Puis eux, ils s'imaginaient que on était des touristes, mais on savait très bien que dépasser une limite, on n'a jamais été dans le coin de Bourbon pour les enfants parce qu'on sait que c'est pas approprié pour leurs yeux. Mais tout ce qui était... justement, en face de la cathédrale, tout ça, c'est tout family-oriented, c'est tout là, les spectacles conviviaux, puis tout ça, puis il n'y a pas de déchéance. Mais vois-tu, il y a encore des gens, puis moi, c'est ça, je me suis retournée, je me suis dit, quand, Moi, si t'es pour penser comme ça, je me demande ce que tes enfants vont penser de toi, savoir que t'es déjà venu ici. Tu sais, dans le sens, c'est comme, tu portes un jugement sur nous, mais nous, on sait où aller, mais toi, tu t'en vas à un endroit, puis t'es même pas gêné d'aller dans un endroit où est-ce que c'est la décadence.
Oui, c'est ça.
Vois-tu, pour moi, il y avait cette espèce de raisonnement. Mais mon point est que, c'est ça que je trouvais être fantastique, c'est qu'on n'a pas besoin de gouvernement ou de règles rigides pour dire, ben, on doit s'entendre, puis on doit faire ci, puis tu dois respecter tu dois accorder un respect pour tel genre de personne, puis tatati, puis tatata, puis justement, il y avait le quartier gay juste à côté du quartier français. Ben, c'est dans le quartier français, mais je suis un petit peu plus, je sais plus, c'est l'est de Bourbon. Puis ça, c'est la même chose. C'est qu'il y a une liberté, mais en même temps, il y a un respect. Fait que il y a jamais une espèce de carte de victimisation. Le pauvre nous sommes victimes, puis tatata, puis non, c'est vraiment cette espèce de façon de vivre que j'ai trouvé ça rigolote. Je trouvais ça le fun, puis je mettais ça sur le principe libertarien. Puis, je sais pas si on pourrait établir ça de façon quotidienne. Je sais pas jusqu'à quel point ça pourrait marcher.
Ben, d'avoir des règles, dans le fond, c'est juste d'utiliser ton jugement, non?
Exact.
Tu utilises ton jugement. Tu sais, moi, je trouve tellement que les règles sont toujours, c'est des règles générales. Donc, c'est comme des grandes lignes. C'est parce que ça peut ne pas être approprié pour plein de situations. Puis là, tu sais, comme mettons, justement, des enfants dans des festivités comme ça, il y en a qui vont très bien réagir, il y en a qui vont... Mais tu sais, c'est toi qui connais ton enfant, puis oui. Tu es capable d'aller à la limite de chacun. Puis là, je te parle d'enfant, mais ça peut être genre, même juste, je pense à même, là, ma mère, elle irait jamais là parce que elle serait complètement traumatisée. Mais tu sais, tu y vas pas. Il y a des endroits où tu dis, gars, moi, ça me met inconfortable, je vais rester à l'écart, je vais aller plus vers, tu sais. On est toutes capables de le faire, ça. On n'a pas besoin d'avoir des règlements, dis donc, t'as pas le droit d'aller là, tu sais. On devrait être capable de se servir de notre jugement pour savoir ce qui nous convient ou pas. Là.
Mais malheureusement, je pense que plus on avance dans le temps, plus le système essaye de nous faire croire qu'on est imbécile, qu'on ne sait pas respirer ou vivre sans l'autorisation de l'entité supérieure qui serait le gouvernement. Et puis là, tu sais, c'est comme maintenant, les gens sont rendus des moutons sans vouloir être. Puis ça, moi, je fais le parallèle aussi parce que tu les mets dans un endroit où est-ce que, oui, il n'y a pas de règles, il y a un système qui va se créer naturellement, mais tu les retournes en société. Et là, il faut qu'ils se conforment, sinon sans ça, ben ils se font taper sur les doigts, ils se font dire quoi faire ou quoi que ce soit.
Ben ça me fait penser à tu sais l'émission Lost, ça avait passé en français, oui. Ils l'avaient appelé Perdu. Bon. Non, mais c'est parce que c'est exactement ça, c'est que tu vas prendre des gens qui vivaient comme en société, tu les lances à un endroit où il y a absolument aucun règlement, il y a aucune règle établie, tu es seul avec toi-même et tu regardes le réseau se créer. Bon, ça c'est une fiction. Mais je suis pas mal certaine que ça refléterait un peu ce qui se passerait pour vrai. Tu sais, t'en as un qui va être plus leader, t'en as un autre qui est moins leader. Donc, ça se crée, tout est naturel dans le fond.
La dynamique va être naturelle. Ça va être justement la personne qui de nature est leader. Ben elle va tout de suite sortir du lot, puis elle va commencer à gérer, à diriger les gens. Il y en a un qui va toujours être soit jaloux, envieux, ou il va être toujours frustré parce que c'est pas lui qui a ça. Mais t'as toujours cette dynamique-là, mais c'est tout à fait naturel. T'as celui qui suit, t'as celui qui aide, celui qui...
T'as celui qui a les connaissances, exact. Celui qui a le plus de connaissances que l'autre. T'en as qui vont être plus forts. Chaque personne a comme son rôle, dans le fond, à jouer dans la société. On n'a pas besoin d'avoir de règles pour dire toi t'es ça, n'est pas dans un nid de fourmis, là, tu sais, comme chaque personne a son propre rôle, non. Ça devient comme naturel, tu dis, regarde, moi je suis bonne pour faire ça, puis c'est ce que je vais faire. Mais dans la société, les gens sont complètement perdus. On est vraiment perdus, dans le fond. On n'a aucune espèce d'idée comment il nous arrive je sais pas moi, une malchance. Puis on se revire toujours, je dis on là, mais je m'exclus. On se vire toujours vers le gouvernement parce que c'est lui qui va dire tu dois, voici ce que tu dois faire, voici les étapes que tu devrais faire.
Exactement.
Tant quand on devrait le savoir par instinct, ou on devrait du moins être capable par nous-mêmes d'aller chercher l'information pour s'en sortir. Hey, je voulais aussi qu'on parle d'un sujet parce que cette semaine, j'ai parlé avec, tu te rappelles, on avait eu un invité, il s'appelle Dan Morin.
Oui.
Bon, Dan, lui, il est au Guatemala. OK, c'est un Québécois qui a quitté le Québec. C'est un grand libertarien. Moi, je dis toujours, c'est le gars le plus libertarien que je connaisse.
Mm-hmm.
Parce que c'est carrément vrai. Il fait pas juste dire... on devrait vivre comme ça. Lui, il fait...
Il le vit.
Il le vit et il fait tout pour être... Parce qu'à un moment donné, t'es quand même assez restreint, là, que tu veux aller dans n'importe quel pays. Il y a toujours... c'est jamais libertarien à 100% pour mm-hmm. lui. Mais lui, il veut vraiment amener ça et il est en train, avec d'autres personnes, de travailler sur le projet Honduras pour partir une société privée, donc une charter city.
Oui.
Et il écrit une constitution. Je lui ai parlé cette semaine et parce que je sais qu'il est très il est très connaisseur, puis c'est un gars qui est extrêmement intelligent. Il est très connaisseur des bitcoins.
Oui.
Puis avec ce qui s'est passé cette semaine, je me suis dit, j'aimerais savoir son de cloche parce que j'avais comme un petit peu de la difficulté à me situer dans tout ce qui se passe.
Exactement. Oui, parce que ça, là, en ce moment, ce qu'on entend dans les médias traditionnels, c'est que le Bitcoin, c'est mort.
C'est fini, oui.
Et je suis pas certaine si réellement mort, mais je sais que là, on passe à travers une période assez mouvementée, là. Mais je vais te laisser, qu'est-ce qui a été la discussion avec Dan?
Ben, en fait, lui, il dit, c'est sûr qu'il trouve ça vraiment malheureux que ce soit comme ça parce que les gens vont perdre confiance au Bitcoin, quoique. Oui. Les bitcoins, ça n'a pas chuté tant que ça depuis ce qui s'est passé. Puis il y a même dernièrement une autre...
Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est ça. Parce que moi, j'essaie de comprendre. Là.
Bon. Quand tu as des bitcoins, tu mets tes bitcoins dans ce qu'on appelle une banque.
Oui.
Tu n'es pas obligé, là, mais la plupart des gens le font, de mettre ça dans une banque. Donc, une de ces banques-là a... s'est fait hacker, donc s'est fait voler tout l'argent et a dû faire faillite. Et là, c'est arrivé aussi en Alberta cette semaine, une autre fois. OK, c'est
mais
moins
gros. Mais quand
tu
parles de banque, est-ce que c'est des banques? Je pensais que c'était des banques d'échange, justement.
Bien, c'est ça.
OK,
c'est
des gens qui changent, qui font transaction entre le dollar et le bitcoin, c'est ça?
Oui, mais c'est là que tu vas mettre ton bitcoin.
C'est beau, OK.
Bon, ben, ou en tout cas, est-ce que
mais,
t'as, okay?
C'est ça, mais c'est deux entités-là qui ont foiré, qui ont mangé une claque sincère, c'est ça?
Exactement, se sont fait hacker, donc se sont fait voler. L'argent est disparu, en fait. C'est ce qu'on sait. On sait pas elle est où, mais l'argent, on parle de bitcoins, sont disparus.
Okay.
Et donc là, je lui disais, qu'est-ce que ça signifie ça? Ben, il dit, c'est comme si deux banques dans le monde tombaient. Je veux dire, les bitcoins existent encore, ceux qui les ont avec eux, parce que tu sais que tu peux garder tes bitcoins sur une clé USB, puis tu peux t'en servir localement. Donc, c'est seulement ceux qui ont mis l'argent dans ces banques-là. Et bon, on sait que il y a pas d'assurance en arrière d'un bitcoin et c'est très difficile à retracer. En fait, si tu perds ton numéro, on dit qu'il faut qu'on l'écrive sur un papier, puis ils donnent même des trucs, mettre plusieurs, puis pour en donner, déchirer le papier, en donner la moitié à une personne, l'autre à l'autre, puis si jamais tu meurs, les deux se rejoignent, puis bon, ils vont, garde. Parce que c'est très difficile à retracer, c'est extrêmement difficile à retracer. Et lui, ce qu'il disait, c'était que c'est sûr que ceux qui veulent faire du mal aux bitcoins, il y en a plusieurs, là, on s'entend que ça fait assez peur, puis c'est énormément d'argent. Donc, d'avoir des milliards, un milliard dans un seul endroit, ben ça va donner un petit peu de motivation à la personne d'essayer d'aller hacker. Tandis que toi, tu pourrais peut-être éventuellement te faire hacker. Il faudrait vraiment que la personne veuille, puis c'est beaucoup de temps pour rien. Mais bon, est-ce que tu aurais beaucoup plus de motivation à aller hacker un système qui a un milliard ou moi, chez moi, que j'ai quelques bitcoins? Qu'est-ce qui est le plus motivant pour toi?
Ben, tout à fait, c'est les banques. En fait, c'est un peu comme dans le temps des cowboys. C'est que là, il y a eu un cambriolage qui s'est fait. Mais à place que ça se fasse avec les chevaux, les fusils, le chapeau de cowboy, puis on rentre dans la banque, puis oh les mains, je veux l'argent. Là, ça s'est fait de façon virtuelle sur l'ordinateur. Ben, virtuelle dans le sens, c'est que ça s'est fait derrière un écran d'ordinateur et il y a eu un gros cambriolage qui a été fait.
Mais les bitcoins ne sont pas morts. C'est-à-dire qu'il y a plein de monde qui les ont encore. Il y a encore des gens qui vont les accepter. C'est juste que faut vraiment faire attention où on va mettre, où on va garder ces bitcoins-là. Donc, peut-être que plus de gens vont être réticents à aller les envoyer quelque part. Et une autre chose aussi, une hypothèse qui a été amenée, c'est que le propriétaire, le CEO de cette banque d'échange-là, de bitcoins, il a dit que l'argent a disparu. Bon, oui, ça peut être des hackers. Oui. Des pirates informatiques. Oui, ça peut être ça. Mais l'hypothèse qui est amenée aussi, c'est que le gars lui-même a fait disparaître les bitcoins, puis là, il a fait faillite. Mais dans le fond, lui, il s'en fout parce que ses bitcoins sont ailleurs ou je sais pas trop, puis il est riche.
Ouais. Moi, l'autre hypothèse aussi que j'ai entendu dire, c'est que c'était planifié par les banques centrales, les grandes banques, tout ça, dans le but ultime, puis c'est ça qui est arrivé avec ces deux entités-là, c'est que maintenant, ça a été repris, je crois, par le système bancaire traditionnel. Est-ce que je me trompe? Il me semble que c'est ça qu'il disait, c'est que là, maintenant, la gestion des transferts, justement, du bitcoin à l'argent, maintenant, va être fait par l'intermédiaire du système bancaire traditionnel. Fait que c'est comme si ça avait été hijacké par... Tu sais, on a voulu créer une monnaie indépendante du système, et là, les grandes banques ne sont pas contentes de voir le système indépendant, un système indépendant arriver puis prendre de plus en plus de force dans l'univers. Et là, ils ont voulu trouver une façon de rentrer dedans, et de la façon qu'ils ont réussi, c'est en... peut-être pas créant, mais il y a eu cet événement-là qui a fait que les banques ont été... cette espèce de banque d'échange a été rembrillée, puis eux autres sont rentrés, puis maintenant, la loi, c'est si vous voulez changer un bitcoin pour de l'argent, maintenant, vous devez passer par le système traditionnel. Fait que ça, c'est une autre rumeur que j'ai entendue. Je ne sais pas si c'est fondé ou pas.
Bien, c'est ça. Il y a plusieurs rumeurs, mais dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est tes bitcoins... C'est de l'argent. Pour toi, ça a une certaine valeur. À qui tu ferais confiance pour les garder? Et donc, là, on s'aperçoit que peut-être que les banques d'échange, c'est peut-être pas la façon la plus sécuritaire. Mm-hmm. Mais encore une fois, vous avez toujours l'opportunité de les garder sur votre ordinateur, ce que je ne vous suggère pas. Moi, je vous suggérerais, comme si vous gardez de l'or à la maison, vous allez le mettre dans un endroit sûr, j'imagine.
Oui,
c'est la même chose pour ça, le mettre sur une clé USB. Parce que j'ai entendu parler que il y avait des... Tu sais, quand tu deviens... Quand t'aimes les bitcoins... Tu sais, maintenant, la publicité, hein, c'est rendu très fort. On est capable de retracer qu'est-ce que tu vas voir sur Internet. On est capable de te présenter des produits qui vont aller avec tes goûts. Tu as probablement remarqué sur Facebook que la plupart des annonces ont un peu rapport avec ta vie.
Oui, sont personnalisées. Mm-hmm, tout à fait.
C'est personnalisé à ce que tu vois, ce que tu recherches, que tu aimes sur Facebook et tout ça. Et donc, si tu fais partie d'un groupe de bitcoins, tu vas avoir des annonces par rapport à ça. Et certaines annonces, c'était par rapport à une espèce de plugin, là, quelque chose que tu peux mettre sur ton ordinateur qui était supposé te donner en temps réel la valeur du bitcoins ou je sais pas trop.
Okay.
Mais en fait, ce que ça faisait, c'est que ça s'installait sur ton ordinateur et ça va aller chercher ta clé, là, ton numéro, à quelque part sur ton ordinateur. Puis ensuite de ça, tu vas perdre tout ton argent. L'argent va se dépenser instantanément. Donc, c'est très...
C'est une fraude, là. Oui, OK. Oh, wow.
Donc, c'est pas sans faille. Donc,
Si ben, il faut être très prudent. Puis je veux dire, regarde, tu faisais référence justement aux commodités, l'or et l'argent. Il y a différentes façons de posséder l'or, l'argent. Il y en a qui vont à la bourse, qui achètent la valeur papier, ce qui est, à mon avis, la chose la plus absurde, parce que jamais, jamais, jamais tu ne peux posséder cette entité-là. En fait, c'est comme si tu gamblais, puis tu disais, bon, une journée, je vais mettre X montant, si ça monte, ben je vais empocher, mais tu marches toujours avec le principe de la monnaie la monnaie traditionnelle, la monnaie fiat, en fait. Puis, il y en a d'autres aussi qui allaient porter ça à la banque. Tu sais, il y a des coffres-forts aux banques. Mais encore une fois, c'est qu'est-ce qui arrive si une journée ta banque, parce que ça aussi, c'est une réalité qui est peut-être envisageable, puis ça risque d'arriver très prochainement, que les banques, du jour au lendemain, ferment parce qu'elles ne sont plus capables d'arriver. Il y a un crash qui arrive. La première chose qu'on ferme, on ferme les portes des banques. Tu n'as plus le droit d'accès à ton argent. C'est où que tu as le plus. Puis, c'est, encore une fois, c'est relatif. Si tu mets tout ça en tout ton lit, ben il y a des chances qu'il y ait un cambrioleur qui soit.
Ouais, mais. Regarde, les gens voient. Moi, je trouve que les gens voient la monnaie comme étant quelque chose qui est tangible. Mais en fait, une monnaie, c'est rien de tangible. C'est juste un crédit. C'est un crédit pour une valeur de quelque chose.
Exact.
Donc, si dans un système où les banques ferment, où t'as ton dollar papier, même si t'en as plein à la maison, ça vaudra plus rien. Il y a personne qui va l'accepter nulle part. Ta monnaie d'échange, ben l'or, c'est encore drôle parce que t'es la personne qui va accepter l'or, qui pourrait l'accepter, le commerçant. Ben comment elle va faire pour savoir si c'est de la vraie or? Comment on va faire savoir, tu sais, je veux dire, c'est difficile de savoir, la quantité versus la valeur. Puis ensuite de ça, lui, il va l'accepter, mais il va pouvoir l'échanger où, à quel endroit. Donc, ta valeur que tu peux posséder, c'est des choses qui vont être échangeables, mais sans le crédit. Donc, ça va être vraiment des biens avec des biens. Et puis, la meilleure chose que tu peux échanger dans n'importe quel moment, là, je te dis pas juste quand il y a un crash, ça peut arriver là, la semaine prochaine, si tu as ça, tu es capable de l'échanger contre autre chose, c'est de la bouffe.
Oui.
De la bouffe, des ammunitions, de l'énergie, puis du gaz ou... je sais pas, du fuel, comment on dit ça en français?
De l'essence, carburant.
Carburant.
Oui, mais moi, je te donne... Moi, quand je te dis il faut diversifier, c'est qu'il ne faut pas tout mettre. C'est comme, si une personne a un montant considérable, ou même, des fois ici, ce que j'entends, là, puis justement, je parlais avec un monsieur quand j'étais en Nouvelle-Orléans, lui, il a retiré tous ses placements, ce qu'on appelle les 401k ici, c'est les REER, les placements pour la retraite. Et ce monsieur-là lui a décidé d'acheter des résidences puis de louer. Il a dit, moi, là, je compte pas sur mon fonds de pension. Je sais que ça va crasher. Écoute, moi, j'étais à côté puis je l'écoutais puis j'ai dit, wow! C'est comme, c'est le fun d'entendre ça de gens que tu connais pas, que tu rencontres comme ça. Puis, c'est le fun. C'est parce que les gens se réveillent. C'est ce côté-là de fun parce que le côté de dire, wow, ça s'en vient, ça, c'est moins le fun. Puis, oui, l'or et l'argent, c'est pas la façon essentielle. Il faut que tu aies vraiment une multitude d'alternatives. Parce que oui, je sais que une pièce d'or, surtout, parce que la valeur, une once d'or, c'est relativement dispendieux. C'est très difficile d'aller faire ton marché avec une pièce d'or puis de dire, regarde, elle vaut 1 300 $, je veux la différence sur une commande de 100 $. La personne va te regarder et va te dire, ben, regarde, va ailleurs, là, parce que j'ai pas de... Mais, tu peux fragmenter. Plus tard, c'est comme l'or, ça peut fondre. Puis oui, il y a une question de confiance qui peut s'établir parce que c'est ce que c'est de la vraie or, pas de la vraie or, quoi que ce soit. Mais il y a aussi les pièces plus petites comme l'argent qui valent en ce moment beaucoup moins cher. C'est pour ça, souvent, je dis aux gens, investissez plus vers l'argent parce que c'est des commodités qui, de un, sont sous-évaluées en ce moment. Et de deux, c'est 20 $ en ce moment la pièce. Fait que c'est beaucoup plus facile d'échanger. Puis c'est des pièces étampées, là, c'est officiel. C'est comme un gros dollar, mais en pièces. Et tu peux même avoir le certificat prouvant la valeur de... Mais il y a encore une question de confiance. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui, à chaque fois qu'il y a un marché qui va partir, il y a toujours des gens qui vont essayer de frauder ce système-là, puis qui vont essayer de le magouiller ou de trouver des façons astucieuses d'être frauduleux, là. Mais je sais pas, c'est pour ça, moi, comme je dis toujours, c'est diversifier le plus possible. Et ce que j'entends souvent, les gens vont dire, oui, je diversifie mes placements, j'en ai dans des mutuelles, j'en ai dans des compagnies à risque, j'en ai dans... Non, ça, c'est pas diversifié. Parce que si ça crash, c'est ton argent, tu l'as pas. Tu l'as pas concrètement dans tes mains. Fait que c'est pour ça qu'il faut essayer justement investir dans l'eau, investir dans la bouffe. On parle souvent des bouffes sèches. Investir...
Puis moi, j'adore, j'arrête pas de revenir avec ça, c'est parce que c'est une découverte. Il y a personne qui le connaît, mais tu me vois venir. Hein?
Oui.
le miel, le miel, c'est, écoute, le miel, là, tu peux garder ça, on a retrouvé du miel qui datait de plus de 1000 ans, puis tu pouvais encore le manger, OK? Donc, c'est quelque chose qui dure, exactement, pendant des années, ça peut facilement rester dans votre maison pendant plus de 100 ans, OK? Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez certain, et la valeur du miel augmente, écoute, je pense qu'elle a augmenté de 40% en 10 ans.
Oui.
Donc, c'est quelque chose qui a une valeur parce qu'en plus d'être d'être mangé, parce que tu peux manger ça, donc c'est comme une source calorifique. Donc, oui. Si tu as besoin de calories, ben tu peux te référer à ça. Ben ça se garde tellement longtemps. Fait que si un jour, parce que là, tu le sais, il y a une espèce de crise des abeilles. On voit ça dans le monde. Il y a de moins en moins de miel. Donc, c'est pour ça que la valeur augmente. Imagines-tu à quel point ton miel va devenir rare avec le temps? Et donc, probablement que ta valeur ne baissera jamais. Elle peut que monter. Donc, c'est un investissement qui est super facile. Tu achètes du miel, puis tu le gardes quelque part chez toi. Puis au pire, tu le consommes.
Mais c'est ça. Mais comme je te dis, c'est trouver tous des éléments qui... Ça, c'est un peu comme de revenir dans le temps des colons et tout ça. Les Indiens, qu'est-ce qu'ils changeaient? Ils échangeaient le tabac, ils échangeaient le sucre de canne, c'est dans le sud, là, plus le sucre de canne, mais toutes des commodités, comme ils appellent, de base, essentielles, qui faisaient que, ça, je veux dire, sans nourriture, tu peux pas vivre. Puis l'autre chose aussi, c'est les munitions. Oh là là, on s'en va dans un sujet là, controversé, là, surtout qu'en ce moment, il y a des choses qui se passent au Canada. Mais de fait, tu ne peux pas te défendre. Tu peux pas protéger tes choses si tu n'as pas de moyens de défense. Puis ça va devenir quelque chose de très, très, très lucratif ou même là qui va rapporter avec le temps. Mais puis je fais juste encore un parallèle avec ce qui se passe. Puis je ne veux pas rentrer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en Ukraine, je ne sais pas si tu as eu, la note de 1. Il y avait l'histoire où est-ce que le peuple était désarmé. Fait que maintenant, c'est des pauvres. C'est des gens qui sont pris puis qui n'ont aucun moyen de se défendre à part de lancer des roches puis de trouver n'importe quoi pour se défendre. Et de l'autre côté, c'est qu'en l'espace de 2 semaines, puis j'ai lu ça, la monnaie a perdu 20%, a chuté de 20% en 2 semaines. Puis ça a été un état de panique. Les banques ont fermé et je crois que même jusqu'à maintenant, il est maintenant impossible pour les gens de retirer plus que de 1000, je pense que c'est 1000 ou 1500 $ par jour. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est beaucoup, 1500 $ ». Mais la personne qui a mis tout dans son compte de banque, qui essaye de retirer le plus possible parce qu'elle voit son argent tomber, ben elle doit paniquer. Elle doit se dire « Merde, j'ai plus accès à mon argent ». Fait que c'est ça, c'est exactement ça. Ça, on tourne vers une autre direction, mais essayez toujours d'avoir ces biens proches de nous, avoir contrôle de ces biens.
Puis il ne faut pas regarder trop loin, juste à cause de l'Ukraine, puis avec ce qui s'est passé avec l'implication américaine, là, bon, si implication il y a, la bourse a chuté.
Oui, vendredi, exactement.
Donc, je veux dire, c'est pas juste, c'est pas ailleurs, là, ça peut se passer chez nous, là, ça en prend pas beaucoup pour qu'on voit là, des fluctuations. Là.
Oui. Puis, hey, regarde, là, il ne nous reste pas grand temps. Puis, deuxième segment, on a un invité qui va. Je pense qu'on va être challengé ou on va le challenger un petit peu. C'est par rapport
à... Ben oui, c'est un péquiste. Hey, on reçoit un péquiste.
C'est par rapport à la charte. Puis, hey, les élections sont-elles officiellement déclenchées? Ça,
c'est... Oui.
OK, bon, officiellement déclenchées, le PQ qui est en avance de 37%, selon le Journal de Montréal, et le Journal de Montréal se base essentiellement sur la communauté francophone. Fait qu'on a comme fait abstraction des allophones puis des anglophones, mais semble-t-il que la chère Pauline, elle a beaucoup de chances de se ramasser majoritaire. Fait que ça risque d'être un sujet qu'on va aborder avec notre invité en revenant de la pause. Puis d'ici ce temps-là, ben regarde, on va faire un petit 2 minutes, puis on vous revient. Hello. Not if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax. Basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receding. A distant ship smoke on the horizon.
Vous êtes entrepreneur et vous avez une vision planétaire? Les gens chez eVision Expert vous aideront à vous faire connaître à travers le monde. Gestion de réputation en ligne, référencement, conception et réalisation de sites Internet pour que vous puissiez vous concentrer à ce que vous faites de mieux. eVision Expert, 1-866-623-2532. De retour sur Deux filles en liberté. Hey Belle, j'ai présenté notre invité. J'étais pas correct dans mon histoire de péquiste, parce qu'il est pas péquiste du tout. Mais c'est parce que je sais pas pourquoi j'associe toujours péquiste et souverainiste, puis c'est une faute que j'ai, c'est vraiment pas correct de ma part, parce qu'il ne l'est pas du tout. Il est aussi chroniqueur pour le Huffington Post Québec. La raison pour laquelle je voulais l'avoir aujourd'hui, c'est à cause d'un article qu'il a écrit cette semaine, la charte rétrograde ou visionnaire. Puis tu sais, on en parle souvent de la charte dans l'émission, je pense qu'on en a parlé dans toutes les émissions depuis que c'est ici.
Puis justement, suite, maintenant, à cause de l'élection, ça risque d'être le nerf ou le cœur de débats qu'on va avoir au cours des prochaines semaines au Québec. Alors, c'est intéressant d'avoir une vision différente peut-être, ou même, je te dis différente, j'ai lu son article, il y a beaucoup de points qui me rejoignent. Mais avant de commencer, on va présenter notre invité.
Oui, Frédéric Gamache. Bonjour Frédéric.
Bonjour les filles, ça va bien?
Ça va très bien.
Ben ouais, ça va. Donc là, moi je lisais l'article la première fois, ça m'a fait, je me suis dit... Écoute, on a la même idéologie, donc on pense la même chose, on s'entend pas sur les solutions tout le temps comme ça, hein, de toute façon. On dirait qu'on a les mêmes valeurs, je dirais, on identifie les mêmes problèmes que souvent, certaines fois, ça peut être avec des gens de la gauche, certaines fois, ça peut être des gens de la droite. C'est quand on arrive pour des solutions que là, vraiment, on s'entend pas du tout. Donc, toi, tu vois qu'il y a un problème de multiculturalisme au Québec. Et tu penses que la charte va... C'est la solution.
En fait, c'est la solution, elle n'est pas juste la charte. Mais la charte, en tant que telle, c'est la base sur laquelle l'État doit se fixer et les gens doivent se fixer. Ça devient une norme. Les gens qui représentent l'État ne peuvent pas, je vais dire faire la promotion, mais ne peuvent pas avoir d'appartenance religieuse. C'est la même chose. Au niveau politique, un fonctionnaire n'a pas le droit, et c'est écrit dans son contrat d'embauche, il n'a pas le droit de dire pour qui il vote et pour qui il prend. Et ça devrait être la même chose au niveau religieux, parce qu'il n'y a aucune manière de dire au niveau religieux, ta religion est meilleure que la mienne ou la mienne est meilleure que la tienne. Il n'y en a pas. Donc, à partir de là, tant qu'à moi, on l'élimine du public.
Mais Frédéric, moi, je suis d'accord là-dessus, mais est-ce qu'il y a vraiment en ce moment un problème au point de vue des fonctionnaires ou est-ce que des gens qui font la promotion de... Et là, on parle des religions, on va s'entendre, on parle essentiellement ou majoritairement d'une seule religion, c'est la religion musulmane.
Mais moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois pas comme ça et je ne vise aucune religion. Je vise à la fois toutes les religions, autant le catholicisme que les musulmans, que les sikhs, que n'importe quoi.
Mais est-ce qu'il y a vraiment une promotion qui est faite de la part des fonctionnaires pratiquants?
Le titre de mon article, c'est « Rétrograde ou visionnaire ». Je vais t'expliquer. Moi, je regarde ce qui se passe en Europe, en France, en Angleterre, où le multiculturalisme a été implanté à outrance. Et pourtant, la République française, c'est une république qui est laïque depuis le début du siècle, depuis 1908, je me souviens bien. Et pourtant, on s'est fait avoir. Et moi, je regarde ce qui est en train d'arriver au Québec depuis qu'il y a eu des demandes d'accommodement raisonnable dans les 20 dernières années. Et c'est très drôle, accommodement raisonnable, alors qu'un accommodement est toujours raisonnable. Et aujourd'hui, on est rendu avec le gouvernement des juges et la primauté de la Charte des droits et libertés. Il y a des citoyens qui ont des droits que d'autres citoyens n'ont pas. Et pour moi, on est rendu qu'on a dépassé ma clôture de ma cour. Ma pelouse à moi, il y a personne qui va venir me dire quoi faire sur ma pelouse. Et la journée où on traverse ma clôture et que l'État ou un individu peut se permettre de rentrer chez moi, c'est terminé.
Ben, je comprends ton point de vue, mais il y a deux choses. Parce qu'en fait, la charte, bon, l'idéologie en arrière de la charte, je trouve ça très bien, mais c'est moi qui est dans le champ où ça s'appliquait pas aux élus. Là, la dernière fois que j'ai lu là, sur la charte, ça disait que ça s'appliquait pas aux élus. Donc les élus pourraient garder le truc là, leur chapeau, leur voile ou n'importe quoi.
Présentement, la charte parle des employés de l'État. Un élu n'est pas un employé de l'État, c'est un représentant du peuple. Mais moi, ma position, et je pense qu'elle va évoluer quand on va débattre de la charte, et c'est déjà commencé, ma position, c'est qu'un élu devrait aussi enlever son signe religieux.
Ben c'est ce que je pense, puis c'est une des choses aussi qui me titillait quand j'ai lu par rapport à la charte. Et on décrit la charte comme étant une charte des valeurs québécoises, mais on n'a pas l'air de...
Ils ont changé, ils ont une formulation excessivement...
Oui. Mais on veut, en fait, ce qu'on veut faire, c'est décrire un peu c'est quoi les valeurs québécoises, à quoi on s'associe, mais on décrit pas vraiment c'est quoi, ou peut-être qu'on l'a fait, mais ça n'a jamais été publié. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'on sait ce qu'on veut pas, mais est-ce qu'on sait ce qu'on veut?
Ce qu'on veut, c'est que les représentants de l'État, quels qu'ils soient, soient neutres au niveau religieux. Que si je me retrouve en avant d'un médecin, qu'il y ait une neutralité religieuse, que je me retrouve en avant d'un fonctionnaire, il y a une neutralité religieuse, que je me retrouve en avant d'un juge, d'un policier, qu'il y ait une neutralité religieuse. Qu'il n'y ait pas de signe. Tu sais, moi là, exemple, moi ça me choque de voir une musulmane avec une burqa, OK? J'en ai vu à Montréal, j'ai pas pogné les nerfs, j'ai pas sauté dessus, et elle fait ce qu'elle veut. Mais si j'arrive dans l'État qui est censé me représenter, parce que je vous rappelle que moi, je suis républicain à la base, puis pas le parti. Je parle de la philosophie politique. La personne qui représente l'État en avant de moi, pour moi, si elle porte une burqa, ça me dérange. Parce que les valeurs de ma société ne sont pas celles-là.
Oui, mais c'est parce que, ça c'est une autre histoire, c'est qu'on s'attaque à des symboles. On s'attaque à des symboles. Donc, la personne qui va, parce qu'elle n'a pas le droit de le faire, retirer son burqa, on y enlève pas son idéologie, on y enlève pas sa foi, on y enlève absolument rien. En fait, on y enlève seulement que le signe.
Exactement.
Donc, ça change rien. Parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui disait, à un moment donné, je me rappelle, qui disait, me faire soigner par une femme qui est musulmane, qui porte le burqa, whatever. On disait, peut-être que ces personnes-là vont moins bien me soigner parce que je suis une femme ou vont moins bien me soigner.
Paranoïa, là.
C'est qu'on entend ça maintenant. C'est ça le problème, c'est que.
Ouais, mais c'est pas la base, elle est pas là. Et la charte là, c'est pas un combat qui a commencé il y a deux mois. C'est pas un combat qui a commencé il y a six mois. c'est pas un combat qui a commencé quand l'ADQ a sorti la crise des accommodements raisonnables.
Mm-hmm.
C'est une confrontation entre deux systèmes politiques et ça date de 1837.
Explique-nous donc, Frédéric, qu'est-ce que tu veux dire par deux systèmes? Parce que là, moi, je comprends, j'ai lu ton article, on a discuté un petit peu, je comprends ta vision, mais quand tu dis de un, t'es républicain, qu'est-ce que ça veut dire par être républicain? Parce que beaucoup de gens vont dire, ben voyons donc, c'est quoi cette vision-là? J'ai jamais entendu ça.
OK, le républicanisme, c'est le peuple qui est souverain sur les lois et c'est lui qui décide. Il n'y a pas de papier autre que ceux qui sont faits par le peuple et ses représentants. C'est-à-dire que si demain matin, le Parlement du Québec décidait de dire que, par exemple, la peine de mort est de retour au Québec, il n'y aurait pas de problème. Aujourd'hui, il faut passer par le fédéral. Ça, c'est un problème au niveau de la liberté du peuple. La deuxième, c'est que ce ne sont pas les lois qui régissent les libertés au Canada, c'est la Charte des droits et libertés qui a primauté sur le droit.
Mm-hmm.
Et ça ne fonctionne pas. Parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on se retrouve avec des citoyens qui ont des droits et d'autres qui n'ont pas les mêmes.
Tout à fait. Et quand tu parles de multiculturalisme, justement, il y a deux semaines, on mentionnait ça. Moi, pour moi, c'est une des pires abominités qui a été établie dans le système, et je pense que ça a été établi durant les années 80 avec Trudeau. Moi, c'est ça exactement. Et ça, moi, ce que j'écrivais, c'est en fait le multiculturalisme, c'est que c'est rendu où est-ce que la terre d'accueil doit accepter et doit se soumettre aux valeurs des immigrants et non le contraire. C'est tout à fait l'opposé, en fait, du melting pot. Moi, c'est un peu ça.
En fait, le multiculturalisme, ça représente très bien ce que sont les Québécois. Les Québécois, c'est un peuple qui est accueillant, qui a toujours été accueillant. On est un pays d'immigration. On a eu des vagues d'immigration pendant les 400 ans qui sont arrivées d'Irlande, de France, d'Asie, d'Afrique, tout ça, d'Haïti, entre autres. Et on a toujours eu un bel accueil. On arrive et les gens disent « Bienvenue chez nous », puis tout ça. Mais on disait « Bienvenue chez nous ». Et les gens qui arrivaient se comportaient en invités, en respectant les gens qui étaient là, en respectant les valeurs des gens. Si vous m'invitez chez vous, je vais respecter ce que vous avez chez vous. Je vais respecter les valeurs, les traditions, tout ça. Parce que vous m'invitez chez vous. Et la même chose si vous venez chez moi. On a... Le minimum, c'est de respecter les autres.
Tout à fait.
Pas les autres, les autres. Au Québec, depuis 15-20 ans, on s'est mis à inverser la chose. On s'est dit, on va vous accueillir... Et vous allez pouvoir faire comme dans votre pays avec vos traditions. Ça va être un enrichissement culturel. Ça va être mieux pour nous. On va apprendre à connaître d'autres choses. Mais c'est beau l'ouverture sur le monde. J'ai pas de problème. Mais si demain matin, chez vous, OK? On va dire le Texas. Si demain matin, quelqu'un qui arrive au Texas dit moi chez nous, je cultive de potes. Fait que moi, j'ai besoin de 3 acres pour cultiver le pot. OK, c'est correct, chez vous, tu le faisais, c'est beau. Et qu'on continue comme ça à chaque nouvel arrivant, le Texas ne sera plus le Texas dans 10 ans.
Tout à fait. Ben nous, en fait, le Texas vit un peu ça, par contre, avec l'immigration hispanique, parce que justement, on applique la même façon. C'est que ces gens-là s'installent et ne veulent pas s'intégrer à la culture. Et ce qui arrive, c'est que là, tu te ramasses avec des ghettos qui sont complètement détachés des valeurs de l'endroit.
Puis avec des gens, parce qu'on leur donne des services dans la langue, en espagnol, on leur donne exactement tout ce qu'ils veulent. Donc, on va se retrouver avec le même problème éventuellement.
Vous êtes exactement dans la même problématique qu'on est ici. Et c'est drôle parce que la différence entre le Canada, le Québec, puis où est-ce que vous êtes, la Constitution des États-Unis vous protège contre ça.
Mm-hmm.
Aux États-Unis, un Américain, il peut être jaune, noir, blanc, de la couleur qu'il voudra, il peut pratiquer la religion qu'il voudra, il peut parler la langue qu'il voudra. S'il adhère à ce qui est marqué dans le texte de la Constitution, c'est un Américain.
Exactement, oui, ça c'est ça. Mais
c'est là qu'on est rendu. Ici, le problème, c'est qu'on n'a pas cette protection légale-là.
Mais la problématique ne serait pas plutôt... Parce que moi, souvent, ce que je parle, c'est que ce que je vois de la charte, c'est que c'est une solution, comme un sparadrap qu'on met sur une plaie qui est vraiment puante. Puis là, ce qui arrive, c'est que pour plusieurs, ça va être la solution, mais on prend pas, on fait pas abstraction au problème d'immigration, parce que c'est certainement là que ça part le problème, c'est d'accueillir des gens qui ne partagent pas nécessairement à la base les valeurs québécoises.
Le premier problème qu'on a eu au niveau de l'immigration, puis c'est un parmi tant d'autres. Au niveau de l'immigration, le problème qu'on a eu, qui est devenu un problème aujourd'hui, c'est que on a favorisé l'immigration francophone, ce qui est en soi une bonne idée, compte tenu de la société québécoise. Le problème qu'on a eu, c'est que on a été chercher des gens qui étaient musulmans. Les premiers musulmans qui sont arrivés ici étaient des gens qui étaient cultivés, qui étaient éduqués et qui étaient dans les hautes sphères de la société. Et on sait que plus t'es éduqué, plus t'as de connaissances, plus t'as de culture, moins tu ressens de l'extrémisme. Ça, c'était vrai depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, on a fait entrer d'autres genres de personnes, peu importe la religion, qui se sont isolées au niveau... Les Chafias, c'est le plus bel exemple. Le triple meurtre qui a eu lieu en Ontario, mais qui est originaire de Montréal, c'est le plus bel exemple. Parce que les filles étaient ici, et les filles de ces gens-là étaient parfaitement intégrées au Québec, se maquillaient, étaient québécoises, et eux ne l'étaient pas. Ils n'ont jamais adhéré à la société d'accueil. Le drame, il est là.
Ben le problème, c'est que t'as comme les gens font pas la différence entre le racisme puis l'intolérance. Tu sais, ça me fait penser à une histoire aussi, j'en ai déjà parlé. Il y a une mosquée qui est ouverte. C'est une grosse mosquée qui est dans le nord du Texas. C'est vraiment une grosse mosquée, une des plus grosses au Texas. Et ça faisait pas l'affaire des gens aux alentours parce qu'ils demandaient, tu sais, c'est sûr qu'ils demandaient, ils se sont installés très loin, ils demandaient plein de petits trucs au gouvernement municipal pour pouvoir construire leur mosquée. Et donc, pour essayer, bon, je sais pas si ça a fait quelque chose finalement, mais il y a un groupe de résidents alentour, parce que comme je te dis, c'est vraiment en campagne, ils ont décidé de faire, en même temps que les messes, là, je dirais, ça s'appelle pas comme ça, là, mais des musulmans, ouais, c'est ça, ils faisaient des courses de cochons juste à côté.
Ouais, mais tu veux, ça, là, c'est le danger de ne pas agir. Le plus bel exemple que je peux te donner, à Londres, présentement, ça devient excessivement dangereux parce que il y a des gangs musulmanes qui se promènent dans les rues et qui vont chercher noises avec les Anglais qui vont se promener avec une bière à la main en leur disant « T'es en territoire musulman et t'as pas d'affaire à boire de l'alcool devant nous. » Et jusque-là, ça a causé du trouble, il y a eu un mort. Mais là, les autorités ont agi comme ils peuvent, pis ci pis ça, en respect des lois et alouettes. La société a fait un instant, ça fonctionne pas. Et aujourd'hui, il y a des gangs catholiques qui patrouillent les rues de Londres pour se faire justice. C'est dangereux, tu sais. J'ai de la misère avec l'intervention de l'État à plein de points de vue. Mais quand on est rendu à, je vais dire un gros mot, ça va être, on est presque rendu à une guerre civile. On parle de clans, de petites gangs, mais c'est quand même des civils qui vont régler le problème. Et ça, pour moi, ça n'a ni queue ni tête. La charte, ce qu'elle fait, c'est de dire l'État, il est neutre. L'État, il est sans religion et ce sont les valeurs de l'État où vous arrivez. Ce que tu fais chez vous, je m'en fous. Tu sais, les Américains, vous en connaissez, vous restez là-bas. Les Américains, là, ils se foutent totalement de ce que leurs voisins font dans leur maison, sur le terrain, sauf une chose. Viens pas me déranger chez eux. Viens pas me déranger.
Exact. Ouais, mais en fait, tout ce que tu viens de décrire, là, c'est l'idéologie libertarienne.
Exact.
Mais ça, là, au Québec, là, on n'en parle pas. Et cette idéologie-là, libertarienne, elle est républicaine. C'est ça, la base. Mm-hmm. Et ce qu'il faut comprendre derrière le peuple québécois, derrière ce qui s'est passé pendant les Patriotes, et ça coule encore dans nos veines. Qu'on le veuille ou non, ça fait partie de notre histoire. Tu sais, la révolution américaine, là, ça fait partie du sang de chaque Américain, qu'il soit jaune, noir, peu importe.
Mm-hmm.
C'est de ça. Et la autre chose, Parce que les patriotes, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils voulaient sortir l'Église de l'État. Ils voulaient un État laïque. Ils voulaient un système d'école étatique sans religion. Et l'autre chose, c'est qu'ils voulaient le peuple, que le peuple soit libre. Et le fondement du républicanisme, c'est que si l'État fait son entrée dans la maison des gens, les citoyens vont se lever. Aux États-Unis, dans la Constitution, si à un moment donné, les citoyens voient que l'État est allé trop loin, ils peuvent prendre des armes pour virer le président.
Je suis tout à fait d'accord au point de vue. Tout ce que tu viens d'avancer, c'est exactement ça ce que je prône. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'en réalité, les gouvernements qu'on a, même aux États-Unis, tu parles que la Constitution est la base des règles ou quoi que ce soit, on est en ce moment avec un président qui se contrefout de la Constitution américaine, qui est en train de plus en plus massacrer chaque élément de la Constitution, des 10 premiers amendements de la Constitution américaine. Au Québec, on est avec un gouvernement hyper interventionniste. Moi, quand tu me parles de l'athéisme, je suis d'accord dans un sens.
C'est très drôle que tu dises ça, parce que tu dis qu'on est aux prises avec un gouvernement excessivement interventionniste.
Mm-hmm.
Je vais te signaler une chose. Au niveau économique, si on parle de la gestion de l'État et de la dette, le pire parti de l'histoire du Québec, c'est le Parti libéral.
Ah, mais moi, je les mets tous dans le même panier, oui.
Oui, mais c'est parce que tu peux pas faire ça. Le seul parti qui a réussi des déficits zéro, c'est le Parti québécois.
Mais pas avec la première ministre qu'on a en ce moment, pas avec le système actuel.
Oui, mais présentement, au niveau économique, le Québec se relève d'années excessivement sombres. Okay? Il faut savoir qu'au niveau économique, entre 2003 et 2012, là, la dette brute du Québec s'est accentuée de 68 milliards. C'est 7,5 milliards par année. Fait que moi, là, qu'on me dise que les libéraux, c'est des génies de l'économie, là, jamais ça s'est vu dans l'histoire du Québec. Jamais. Il n'y a aucune étape, il n'y a aucune place dans l'histoire du Québec où la dette s'est accentuée à ce niveau-là. Pour te donner une idée, l'endettement québécois a débuté en 1960 avec l'arrivée de Jean Lesage. Parce qu'avant ça, dans le temps de Duplessis, il n'y avait pas de dette. Mais il n'y avait pas d'État. Okay? On s'entend, il n'y avait rien. Quand Jean Lesage est arrivé, il a fait la nationalisation de l'électricité qui nous a endettés, mais qui nous a créé une richesse, et ça, je vais en reparler dans quelques minutes. OK? Il s'est endetté là-dessus. Ce qui nous a laissé quelque chose, les milliards que Lesage a mis là-dedans, nous a laissé l'Hydro-Québec, nous a laissé un État qui existe, un gouvernement qui existe. Avant ça, ça n'existait pas. Pour te donner une idée, entre 1960 et 2012, le Québec s'est endetté d'à peu près... je pense que c'est 2,7 milliards par année. OK? Tu vas me dire que c'est gros, mais on avait quelque chose qui nous restait. Quand les libéraux sont arrivés au pouvoir en 2003, à partir de ce moment-là jusqu'à 2012, au niveau de la dette brute, on a monté de 68 milliards en 9 ans. Et au niveau de la dette des déficits accumulés, en 9 ans, on a monté de 33 milliards. C'est du jamais vu au niveau du Québec.
Quelle est la cause de cette dette-là? Parce que moi aussi, ce que je vois...
Je vais te donner un exemple, OK? Mm-hmm. On a Hydro-Québec. Hydro-Québec, ça, c'est drôle parce que les gens disent « Ah, oh, mais le Québec, ça peut pas vivre tout seul, puis ça a pas de richesse, puis on peut rien vendre. » Hydro-Québec, c'est une propriété 100% québécoise qui, aujourd'hui, si on regarde les revenus et qu'on regarde surtout ses avoirs, ça vaut aux alentours de 180 à 200 milliards de dollars. OK? Ça, c'est ce que ça vaut aujourd'hui. Si demain matin, on décidait collectivement de prendre 49% des actions d'Hydro-Québec et de les vendre en bourse,
mm-hmm.
je t'annonce que la dette québécoise, là, elle vient de fondre de pas mal. OK? C'est énorme. Mais la différence entre Jean Lesage et le gouvernement de Jean Charest en 2003 et 2012, c'est tu sais quoi? C'est qu'entre 2003 et 2012, ce qui s'est créé comme actif qu'on pourrait vendre demain matin, c'est zéro point barre. Pour te donner une autre idée, Hydro-Québec, l'année passée, a remis au gouvernement québécois 1,8 milliard de ristournes de profit, OK? Mais tu sais, c'est quoi, t'as entendu parler du programme des éoliennes?
Oui, exactement.
Le programme des éoliennes, Jean Charest a signé tous les contrats à des niveaux de redevances qui n'ont aucun sens. On parle de entre 9 et 14 sous le kilowattheure. Ce qui fait que les éoliennes, au Québec, nous coûtent collectivement 1,5 milliard par année, au minimum jusqu'en 2020.
Oui, mais regarde...
Laisse-moi
oui.
finir juste ce point-là. On va s'amuser. Là, on a reçu l'année passée 1,8 milliard de dollars de Hydro-Québec. Le déficit du Québec était de 3 milliards, ce qui est quand même pas mal avec le dernier budget qu'on a présenté. Mais là-dessus, là, si on enlève le 1,5 milliard qu'on donne aux éoliennes, là, ça donne juste 1,5 milliard de déficit. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vraie réalité.
Mais pour quelle raison, alors, il n'y a aucun parti qui pense faire ce que tu viens de mentionner? Parce que la dette, on ne peut pas l'ignorer. Elle est là, elle est grandissante. Et en plus de ça, c'est que les gouvernements tentent de mettre ça sur les épaules du peuple. Et on les taxe encore plus, on les pénalise encore plus. Moi, c'est bien beau dire que le Québec est riche. Si son peuple est en train de crever de faim, est en train de s'appauvrir, on pense...
C'est riche, mais il y a une dette incroyable.
Il y a une chose qu'il faut faire, c'est que on ne gère pas les finances d'un État comme on gère les finances de notre portefeuille. Et on regarde la situation globale sur la planète. Oui, on s'est fait avoir par la hausse de production du gaz du côté de la Russie, ce qui a fait que le coût de l'électricité aux États-Unis a baissé d'énormément. Mm-hmm. Okay, présentement, vendre l'électricité aux États-Unis, on la vend à zéro profit. Sauf que le gaz, il n'est pas éternel, comme le pétrole en Alberta. Dans 10 ans, le gaz, il n'aura plus le même prix parce qu'il en restera pratiquement plus. Ce qui fait que dans 10 ans, Hydro-Québec, au lieu de verser 1,8 milliard de redevances, une fois qu'on va s'être débarrassé des histoires d'éoliennes puis qu'on va avoir 1,5 de plus, on va probablement aller chercher des profits qui vont virer aux alentours de 10 à 14 milliards par année.
OK, mais tu parles dans 10 ans. Entre-temps, on est en train de crever son, de tuer son peuple. Regarde, il y a de plus en plus de gens qui quittent.
Excellent. Je vais te conter une autre histoire. Le pétrole de l'île d'Anticosti. L'Hydro-Québec a vendu ces droits-là par décret ministériel. C'est pas Hydro qui a décidé de le vendre. C'est un décret ministériel qui a été signé par des libéraux pour un montant complètement ridicule. Et on parle de profits potentiels qui frisent les 80 milliards au total. Mais ça irait dans nos poches. Ce que Pauline Marois a fait, c'est qu'elle a été rencontrer les compagnies qui avaient obtenu ces droits-là de façon un petit peu tout croche. Et leur a dit, ben regardez, nous autres, on vous paye la phase d'exploration. Et après ça, vous investissez de votre argent dans la production et dans l'exploitation et on ramasse 50 % des droits sur l'île d'Anticosti et on ramasse 60 % des profits. 60 % des profits, ça vire aux alentours de 45 milliards sur 20 ans. On a fait un investissement de 115 millions et on a un profit clair de 45 milliards. Je trouve que c'est un maudit bon investissement, moi.
Mais est-ce qu'encore on le sait? Est-ce que c'est juste sur papier, ça? Parce que ce que je vois en ce moment, c'est que tout laisse croire. Dans 10 ans, il n'y aura plus ça. Dans 15 ans, le pétrole ou peu importe. Ce que tu avances, c'est intéressant, mais c'est sur papier. Et moi, ce que je sais...
C'est une chose dans la conférence de presse qui a eu lieu quand ça s'est arrivé. Je me souviens plus de quelle compagnie, mais il y avait un anglophone qui a dit que depuis 2010, il connaissait le potentiel de l'île d'Anticosti. Et ça, c'est un homme d'affaires. C'est un businessman. Puis, j'ai tendance à écouter les gens qui ont fait du fric et qui en font.
Ah, tout à fait.
Ils savent comment faire. Si le monsieur se pointe là et dit, depuis 2010, on sait ce qu'il y a en dessous, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a en dessous. Ces gens-là investiront pas des milliards de dollars, parce que probablement que c'est une affaire comme 10 milliards qu'il va falloir investir pour exploiter. Ils investiront pas une dizaine de milliards de dollars pour le plaisir de la chose.
Mais je reviens à mon point, moi, parce que sur papier, moi, ce que je vois, c'est que le Québec, puis j'ai jamais nié ça, le Québec est une richesse incroyable. C'est le Texas, on pourrait être le Texas du Canada, au point de vue des richesses naturelles, au point de vue du potentiel que le Québec a. Mais de la façon, puis laisse-moi juste terminer, la façon que le Québec est géré en ce moment, on est en train de castrer définitivement les entreprises, on est en train de les saigner en ce moment parce qu'on est toujours en train de vouloir les taxer plus. La mentalité des Québécois, c'est les personnes qui font de l'argent, c'est des méchants. La société est vraiment renversée. Elle vient d'où? Elle vient du système. Elle vient de la pensée. Moi, j'appelle ça la pensée socialiste. C'est point. Puis la social-démocratie, c'est vraiment un cancer en ce moment. Ça, on laisse...
La social-démocratie, c'est pas un cancer en ce moment. La social-démocratie...
Et...
La social-démocratie, comme elle est présentée, c'est un cancer en ce moment.
OK. Ben là, moi, j'ai jamais connu rien d'autre. Alors, moi, pour moi, c'est ça.
Vous, aux États-Unis, là, les États, c'est clair. Le gouvernement fédéral, c'est clair. Puis ils se mêlent pas l'un de l'autre. On est d'accord?
Plus maintenant. Plus ouais, maintenant. Pas avec Obama.
La base, c'est ça.
Les fondements, oui, au point de vue... pratique, la Constitution, c'est très clair, c'est qu'il y avait une entité étatique, l'État, je veux dire, puis le fédéral, et un n'embarquait pas dans l'autre. Malheureusement, à cause du système qu'on connaît actuellement, qui ressemble de plus en plus à ce qu'on observe au Canada, regarde juste la santé. La santé n'avait jamais été...
L'éducation,
ça devait pas être... C'est même pas indiqué dans la Constitution américaine. Maintenant, on a décidé que ça se faisait comme ça. Et au Québec, c'est la même chose. C'est qu'il y a une espèce de... C'est une mouvance progressive qui est très malsaine. Puis on est en train... Mm-hmm.
Présentement, c'est le résultat de près de 250 ans de guerre qui a été pacifique. Le Québec est... à son fondement politique, une république. Le Québec, le peuple, a toujours eu le pouvoir. Depuis que le Canada existe, le Canada, ça s'appelle... On dit que c'est une confédération.
Oui.
C'est le texte dit que c'est une confédération. Ce n'est pas une confédération. C'est une fédération où le gouvernement fédéral a la grande majorité des pouvoirs. Une confédération, c'est l'Europe. C'est un rassemblement d'États souverains, comme les États-Unis, qui délèguent des compétences communes à un État supérieur. Les États-Unis, c'est une confédération. Si demain matin, l'État de New York décide de passer la peine de mort, puis du côté de la Californie, il décide de fumer du pot, il n'y a pas de problème. Au Canada, on peut pas faire ça. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah, oh, mais là, on va aller en fédéral, au provincial, à ci, à ça. » Ça marche pas. Ce qui arrive là, c'est... la continuité du combat qui se passe entre deux philosophies, qui est le républicanisme québécois et qui est le multiculturalisme de Trudeau.
Ben là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'adhère à cette pensée-là. Mais j'essaie... Puis on a juste 5 minutes, puis on va revenir. Je veux qu'on continue la conversation un autre tantôt, mais sérieusement, j'essaie de voir comment on peut renverser cette mentalité-là.
Très facile. Le seul parti qui a réussi à gérer le Québec de façon correcte au niveau économique historiquement, c'est le Parti québécois. Le Parti québécois, au début des années 80, a coupé les salaires des fonctionnaires de 20%. Ça s'est jamais vu ailleurs au Québec. Il n'y a pas un autre parti qui a fait ça. Le Parti québécois vient d'aller à l'île d'Anticosti pour exploiter du pétrole. Je t'annonce que si les libéraux avaient fait la même chose, il y aurait eu des émeutes. Pourquoi? Parce que le Parti québécois, c'est une coalition. Au Parti québécois, là, pourquoi il y a tant de chicanes? C'est parce qu'il y a des gens de la droite, il y a des gens de la gauche, du centre, de partout, de toutes les opinions. Ils sont rassemblés pour une chose, c'est gérer le Québec correctement puis faire la souveraineté. L'intérêt du Parti québécois, le lendemain de la souveraineté, là, je t'annonce que le Parti québécois, ça n'existe pas.
Non, ça c'est sûr, mais regarde juste l'indépendance que le Québec a envers les autres provinces avec la péréquation. Comment on peut enlever... cette dépendance-là, c'est viscéral. Regarde nos programmes.
Dans 10 ans, là, Ralph Klein, tu connais Ralph Klein?
Oui, oui.
Ralph Klein, quand il était premier ministre de l'Alberta, a déjà dit « Ça me dérange pas pantoute d'envoyer plein d'argent dans les autres provinces en autant que ça passe pas par Ottawa. » Sais-tu pourquoi il a dit ça? Parce que Ralph Klein, quand il creusait dans son carré de sable, il a trouvé le fond. Il a dit « Christy, il y a un fond après ça. Mm-hmm. » Il s'est dit « Si j'aide le Québec... » Parce que le Québec, on a de l'eau, on a de l'hydroélectricité, puis ça, c'est renouvelable. On en a pour le restant de nos jours, puis après-demain, après. Ralph Klein, il s'est dit, OK, si j'aide le Québec aujourd'hui, ça se peut-tu que le Québec m'aide dans 10, dans 20 ans? Puis, il a raison. Parce que moi, comme Québécois, là, au sein de la Confédération canadienne, si elle existait pour vrai, là, j'ai pas de problème à aider l'Alberta parce qu'elle m'a aidé. C'est du donnant-donnant. Moi, dans 10 ans, là, quand le Québec va avoir de l'électricité qu'il va vendre au... à tout le nord-est des États-Unis, parce qu'eux autres, ils n'en auront plus de gaz, puis que nous autres, on a l'électricité en masse. Quand le Québec va avoir son pétrole, va avoir ses mines, puis va avoir tout ça, parce qu'on l'a, puis ça existe, c'est ce qui fait notre richesse au niveau des banques, puis tout ça, j'ai pas de problème, moi, à aider l'Alberta. J'ai pas de problème à m'en aller là-bas, à envoyer des compétences qu'on a ici, entre autres en décontamination, si on peut regarder du côté de lac Mégantic, de prendre les compétences qu'on a en décontamination, puis s'organiser pour qu'en Alberta, dans 20 ans, dans 30 ans, ils puissent cultiver dans les sables qui sont présentement contaminés. On a les expertises pour ça, et nos richesses, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 30 ans, vont être là et vont être bonnes pour tout le monde. Pourquoi pas partager? C'est pas du communisme, ça.
Non, non. Oui, ça, puis ça, j'y crois. Mais comme je reviens à dire, c'est parce que la façon que tu présentes ça, il y a une cohérence, et c'est ça que je reproche beaucoup avec les partis soi-disant de droite québécois, c'est qu'il n'y a pas de cohérence dans leur discours, c'est qu'ils vont ils s'en vont dans une direction, après ils retournent de bord. C'est que en ce moment, on est comme, tu nous présentes un portrait de ce que pourrait être le Québec, mais en ce moment, OK, ce qu'il est, mais regarde, en ce moment, il n'est pas comme ça au point de vue terre à terre. Les gens ont 20 heures, vont à l'hôpital, ils passent 20 heures à se faire soigner. C'est pas un système cohérent. Les gens ont des routes, les routes sont c'est même pas, on dirait qu'on est en Irak tellement c'est catastrophique. On jase
parce que je sais que vous êtes pressé, je vais juste te poser une question.
Oui.
Les libéraux, ils ont été 9 ans au pouvoir?
Oui. Mais pour moi, c'est pas ma solution.
Mais je vais t'expliquer. Les libéraux, ils ont été 9 ans au pouvoir. Et ils ont rien fait. Le dernier budget du Parti québécois qui a été présenté, selon moi, il manque une chose dedans. Sais-tu c'est quoi?
Vas-y.
C'est la promesse que dans la prochaine année, on coupe 1% des fonctionnaires.
Mais là, c'est pas ça qui va régler tous les problèmes de la planète. Hein?
Mais
je veux dire, c'est parce que c'est engouffré. Je comprends qu'il faut partir de. Sauf que c'est encore très divisé au Québec. Je veux dire, tu sais, chaque personne est dépendant du système, est dépendant des programmes qui sont offerts, les hôpitaux, les garderies à 7$. Chaque personne a son petit programme qu'il veut défendre. Donc c'est extrêmement divisé, ça coûte cher et ce n'est pas d'accessibilité. C'est ça le problème. Le problème au Québec, c'est que les gens payent. Il y a des programmes qui sont là, ben, pour eux, supposément. Et l'accessibilité n'est pas là, puis c'est une des raisons pourquoi je suis partie. Hey, on doit se laisser, on a terminé, mais oui, on va te revoir, c'est clair, on va te revoir. Nous, on fait une petite pause, puis garde, vraiment, bravo. Je suis contente de voir qu'il y a des gens qui pensent pas comme nous, mais qui ont une genre de cohérence, qui fait que ça nous remet en question, puis on va se poser des questions dans l'avenir, puis c'était vraiment intéressant. Deux filles en liberté. C'était... en tout cas, je trouve que c'était un invité très intéressant.
Très spécial, en fait. Je veux dire, moi, c'est la première fois que je m'adresse à une personne qui pense différemment que moi, puis ça fire pas à l'engueulade. Ou c'est souvent, c'est ça qui arrive quand t'es dans les médias sociaux, c'est que tu vas parler à une personne qui pense différemment de toi, puis en l'espace de 5 minutes, c'est espèce de tatati, puis tatati, puis les couteaux ouais. volent bas, puis il n'y a plus d'inconsistance dans la conversation.
C'est ça, exactement, puis ça finit par « mon père est plus fort que le tien ». Mais c'est oui. exactement, sauf que moi, ce que je trouve bien, c'est que, tu sais, moi, je pense que j'ai une ouverture d'esprit, là, quand même une bonne ouverture d'esprit. Je suis capable de parler avec des gens de la gauche et des gens de la droite qui vraiment ont des idées, tu sais, complètement à l'opposé de la mienne. Sauf que, dans ce cas-ci, je suis mêlée. Je sais pas quel chemin prendre parce que j'ai l'impression qu'il y a une cohérence entremêlée d'une incohérence. Je sais pas, t'as-tu cette...
Ben, j'ai la même impression parce que ça suit pas notre ligne de pensée. Comme je disais à l'extérieur des ondes, tu sais, je disais, regarde, il pointe exactement les mêmes problèmes que nous. Le fait que le Québec soit endormi depuis, au moins les 15 dernières années ou les 25 dernières années ou encore plus, ça, c'est un problème fondamental. Mais après, quand il arrive avec des solutions qui vont tout à fait à l'opposé de nous, lui, il est pour la nationalisation de Hydro-Québec, il est pour la nationalisation du pétrole. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment... j'essaie de comprendre comment ça va enrichir le peuple. Puis encore sa notion de république. La république, je suis tout à fait derrière lui. Moi, comme je mentionnais, je sais pas si je l'ai mentionné en ondes ou pas, mais moi, je suis avant tout d'être une libertarienne. Je suis constitutionnaliste. Ma base fondamentale dans ma pensée aux États-Unis, c'est la Constitution américaine. Et lui, il allait dans cette direction-là. Il avait l'air à dire que la charte allait être le début de la Constitution québécoise. Mais c'est tellement superficiel pour moi, cette charte-là, que je peux même pas concevoir que ça peut faire partie des éléments de base d'une soi-disant Constitution québécoise.
Mais, du fait aussi que pour la solution, selon lui, c'est le PQ. Il me semble, de toutes les solutions que je pourrais trouver, là, j'ai jamais pensé à ça comme étant une solution qui pourrait être viable pour le Québec. Puis moi, j'ai de la difficulté à comprendre comment des gens peuvent parler d'une nation riche endettée. Ça ne fonctionne pas.
Ben moi, ce que j'ai compris, c'est que de un, les gens évaluent les acquis. Comme Hydro-Québec, semble-t-il, vaudrait, j'ai pas les chiffres à l'appui, mais plusieurs centaines de milliards de dollars. Alors ça pourrait renflouer une partie de la dette, ou ça serait comme ça enlèverait une partie de la dette. Et il y a plusieurs autres éléments, dont l'exploitation du pétrole ou l'exploitation de richesses naturelles, qui fait que le Québec est riche. Et c'est là que moi je dis oui, le Québec est riche, et je n'ai jamais douté de la richesse du Québec comme nation. Puis je parle pas comme pays, mais
non,
comme
il y a un potentiel. C'est ça, il y a un potentiel.
C'est incroyable. L'eau, t'as maintenant du pétrole, t'as le gaz, t'as même le potentiel intellectuel. On est une terre fertile, mais en même temps, on est rendu tellement amorphe et tellement dépendant du système que tout est bloqué. Et son discours souvent allait en attaquant les libéraux. Puis moi, c'est bien quelque chose, quand je lui parlais, j'avais l'impression qu'il parlait que nous, on était du bord des libéraux, puis lui était du bord, puis c'est pas du tout le cas. Moi, je suis ni PQ, ni libéral, ni n'importe quelle partie du Québec en ce moment, pour moi, va chercher ou met le point sur les gros problèmes fondamentaux. Fait que moi, je m'associe à aucun parti québécois, du Québec. Puis de lui entendre expliquer que l'indépendance du Québec avec dirigeant le Parti québécois, ça serait la solution, je suis pas capable de comprendre. Je suis juste pas capable de comprendre parce que je comprends le futur de ce qu'il voudrait que le Québec soit, ou ce que lui, il dit ce que le Québec est, mais c'est dans un sens futur et ce qu'il est en ce moment réellement. La population, la moyenne d'endettement chez les Québécois, elle est affolante. Puis, bon, bien sûr, on va dire, regardez les Américains, regardez... Oui, 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 mais là, je m'oriente vraiment vers les Québécois. C'est incroyable comment l'endettement personnel est fou. Comment les gens se font servir de façon exécrable des services qui sont désuets. Les routes, on dirait qu'on est à Beyrouth. Les hôpitaux, ben écoute, je pense que le vétérinaire où est-ce que j'amène mon chat, il est en meilleure condition.
Les services de garderie, les CHSLD, nommez-en, là, des services, il n'y en a pas. Puis t'as de l'autre côté des services riches, où on met beaucoup, beaucoup d'argent, parce que c'est un monopole, comme la SAQ. C'est complètement fou, parce que d'un côté, la SAQ, on s'entend-tu que c'est pas un service essentiel, là?
Non. Puis d'un autre côté, ils sont déficitaires là, en ce moment. Ils sont même pas capables de... Parce que là, ils commencent à s'apercevoir qu'il y a de moins en moins de gens qui consomment chez eux. Alors, c'est pour ça, j'ai de la misère à comprendre, à mettre les morceaux du puzzle en place avec le raisonnement qu'on a entendu tout à l'heure. Je suis pas en train de dire qu'il est illogique. Il est juste, en ce moment, je suis pas capable de tout formuler puis de voir la direction dans laquelle on va. On dirait qu'il y a des ponts qui manque. C'est comme une autoroute où est-ce que les endroits où est-ce que les petites rivières, on n'a pas encore construit les ponts. Puis il faudrait croire que la route est belle pour se rendre à la destination.
Mais juste du fait que bon, ils décrivent comme sa façon de penser, son idéologie, une idéologie républicaine, tout ça. Il parlait de la Constitution américaine et dans la même phrase de dire que le Tea Party qui est justement ça, c'est-à-dire que leur base solide, c'est la Constitution américaine, ce sont des extrémistes. Oui. Je vois pas...
Ils sont dangereux, c'est ça. Lui, ce qu'il me disait, c'est que c'est des entités dangereuses parce qu'elles sont, selon son opinion, elles sont contrôlées par des personnes religieuses très puissantes. Je le sais pas, moi, mon implication dans le Tea Party, parce que je participe à des activités, choses comme ça, où il y a des gens, où c'est comme quand j'étais pour la campagne de Ron Paul, j'ai rencontré plein de gens. Oui, j'ai rencontré des religieux, mais j'ai jamais senti qu'il y avait une dominance où est-ce qu'on veut implanter des valeurs sociales.
Puis c'est ça, c'est parce que ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème québécois, ça, de voir toutes les religieux comme étant des dangereux, des extrémistes, exactement. Je veux dire, faut que t'ailles... Puis garde, je les comprends, là. Je pensais exactement la même chose. Quand je suis venue ici, je comprenais pas. Parce que quand t'arrives dans un... parce que maintenant, le Québec, c'est beaucoup laïque, quoique quand moi, j'ai grandi vraiment dans la religion catholique à l'école et tout ça. Bon, oui. Mais sauf que quand je suis arrivée ici, j'ai fait « Ouh, c'est une toute autre... » Puis pourtant, on n'a pas de religion dans les écoles, là, donc c'est pas à l'école qu'on inculque ça, mais c'est tellement fort dans les familles, c'est des valeurs qui sont tellement très fortes et transmises aux enfants que... Quelqu'un qui est comme moi, je veux dire, qui a pas vraiment d'attache religieuse j'inculque pas aucune notion religieuse à mes enfants, ben c'est moi l'extrémiste ici, donc. Mais si tu parles avec des gens, c'est des gens tout à fait normaux. Oui, ils vont aller à l'église, mais je veux dire, c'est ils ont une façon de dire comment je peux dire je fais confiance. Moi, je vais dire je fais confiance à la vie, ça veut rien dire. Oui. Hein? Eux autres, ils vont dire « Je fais confiance à Dieu, je t'envoie des pensées positives. » Eux, ils vont dire « Je vais prier pour toi. » Tu comprends? Donc, c'est juste ce petit côté-là. Je pense que, oui, il y en a des extrémistes religieux qui vont prendre à la lettre tout ce qu'il y a dans la Bible, puis ils vont en parler, et puis ils vont mettre des versets puis sur Facebook. Il y en a des extrémistes, mais ça, il y en a partout. Et je pense pas que le Tea Party soit mené que ce soit tous des gens qui sont extrêmement religieux, parce que si c'était le cas, je ne serais pas capable de m'identifier à cette mouvance-là. Mais, en tout cas, c'était une super bonne entrevue.
Moi, je voulais juste dire, par rapport à ce que tu disais, justement, c'est parce que c'est cette espèce de... Parce que on a continué la conversation. Une des choses qu'il mentionnait, c'est que il mentionnait que le Parti démocrate, d'ici 10 ans, va se devenir beaucoup centralisé, va se centrer, là, se mettre plus vers le centre. Il va laisser rentrer des gens de droite et de gauche et ça va créer comme une espèce de fusion de plusieurs personnes. Et ça, je ne peux pas adhérer à cette pensée-là parce que les États-Unis, OK, sont en train de devenir tellement progressistes, socialistes. La seule issue que je vois, c'est des groupes comme le Tea Party. Mais vois-tu, c'est ce genre de déchirement.
Les démocrates ne laisseront jamais rentrer la droite. Ils s'en vont de plus en plus à gauche, OK? Comme tu dis, la seule façon de s'en sortir, c'est d'aller chercher des gens qui sont beaucoup plus à droite pour essayer de ramener ça un peu dans le milieu. Je sais pas si tu comprends, mais jamais... Oui. Écoute, surtout avec le gouvernement d'Obama en ce moment, jamais qu'ils laisseront rentrer la droite. C'est impossible. C'est impossible. C'est de plus en plus à gauche. C'est pas le contraire. Là, on voit pas que ça s'emmeute. On voit que ça s'empire.
Puis, je veux dire, ça, je pense que c'est de l'information qui est peut-être, c'est biaisé au Québec, bien entendu. Regarde, souvent, on entend le discours, et c'est pas... Moi, c'est constamment, j'entends toujours le discours, « Ah, mais Obama, s'il était au Québec, il serait de droite. Obama, c'est un modéré. Vous avez pas l'information qu'on a, ou vous n'avez pas les mêmes yeux qu'on a, mais ça se peut pas que vous pensiez comme ça, parce qu'en ce moment, on est en train de créer, justement, une entité purement socialiste, et purement c'est étatique là maintenant là. Puis une autre chose qu'il abordait, que j'étais théoriquement d'accord avec lui, il faisait référence à la Constitution américaine et comme quoi il y avait une séparation entre les États et le niveau fédéral, mais c'est une chose qui est presque de moins en moins existante. Les États-Unis deviennent une fédération où est-ce que tout est centralisé vers Washington. C'est Washington qui contrôle et tout le monde doit s'adhérer à ça. Qu'on parle de tous les... Écoute, regarde tous les scandales. On parle du premier, du deuxième. Tous les amendements, les principaux amendements de la Constitution américaine, ils sont biaisés ou ils sont détruits parce qu'on impose des lois quelconques pour avoir encore plus de contrôle tentaculaire.
Mais oui, parce qu'on regarde ça, juste la santé. Bon, on voit avec Obamacare, c'était maintenant, c'était pris en charge par les États. Puis même, c'était pris en charge même à plus petite échelle que ça, oui, par les comtés, local. C'est ça exactement. Donc, c'était pas du tout fédéral, c'était administré à vraiment plus petite échelle. Et là, on voit le gros monstre Obamacare arriver, puis on voit c'est un vrai flop. Et de l'autre côté, t'as aussi l'éducation qui était en fait réservée au gouvernement des États. Et encore là, Obama essaie de s'immiscer là-dedans avec son foutu Common Core.
Common Core. Un monstre. Puis, heureusement, il y a des États, dont le Texas, je sais qu'il y a plusieurs autres, la Louisiane, il y avait le Michigan, il y a plusieurs États qui, en ce moment, sont en train de passer des projets de loi pour renverser cette monstruosité. Il y a des États qui sont en train d'essayer de renverser Obamacare, mais ça, c'est d'une complexité, là. Si tu réussis à faire ça, tant mieux, mais c'est très, très difficile. Et c'est ça qui fait que... Oui, sur papier, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis républicaine dans le sens qu'il décrit. Je suis pour qu'il y ait une république où est-ce que les règles partent vers le bas et montent vers le haut. Mais en ce moment, c'est terminé, cette approche-là. C'est quasi inexistant aux États-Unis. Il y a juste des petites cellules qui commencent à se battre et se révolter. Et ça s'appelle les Tea Partiers. Et je ne vois pas qui compte d'autre faire ça. Puis même dans le Parti républicain, c'est déchiré, on s'entretue. Puis le seul groupe qui se tient debout, qui est pour la Constitution américaine, c'est encore une fois les Tea Partiers. Fait que moi, je peux pas rester neutre face à ça. Et tout à l'heure, quand il disait qu'on c'était les ennemis, puis même il faisait référence à l'Alberta avec Danielle Smith, puis son parti, qui était également un parti extrémiste et dangereux. Je peux pas accrocher à ça. Là. Moi, là, on vient de me perdre en faisant ça. Puis j'aimerais comprendre son argument. Puis ça serait peut-être à suivre aussi dans la prochaine.
Ben, c'est le fun. C'est parce que, tu sais, on la connaît, l'idéologie de libertarienne, Tea Party, on la vit à tous les jours. Moi, je le sais très, très bien que je suis pas dangereuse puis que je suis pas une extrémiste. Toi, tu le sais que t'es pas dangereuse puis que t'es pas une extrémiste.
Puis j'ai jamais rencontré des gens dangereux et extrémistes. C'est ça. Des fois, on essaye dans les rencontres, là, justement, il y avait quelque chose, j'avais écouté dernièrement sur Internet, on disait « Ah, oh, vous, les républicains, avec vos Tea Party, vous êtes des extrémistes, vous êtes des racistes, des choses de même, parce que tu vois deux, trois petites pancartes. » C'est quoi qui montrait une photo d'Obama avec la moustache d'Hitler, puis la jeune personne qui se faisait questionner par le journaliste, elle disait, ben écoute, il y a 8 ans avec Bush, il y en avait des affiches de Bush avec la moustache. Je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas juste les Tea Partiers qui ont fait ça. Oui, il y a des gens qui sont un petit peu plus radicaux, qui, eux, c'est noir ou blanc, puis Bush, puis pas Bush, mais Obama, c'est un dictateur, c'est un communiste, un ci, un ça. Il y en a d'autres qui vont peut-être penser ça, mais ils vont le présenter différemment. Ils vont arriver avec un argument un peu plus solide, puis qu'ils vont être capables de démontrer que c'est vrai que les tendances dans laquelle on va, la tendance est très, 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 très progressive et très de gauche. Puis on peut pas nier ça. Puis cette approche-là va tout à fait à l'opposé de la pensée républicaine, comme il mentionnait. Fait que, puis même au Québec, c'est la même chose. C'est pour ça, à plusieurs reprises,
Tu peux pas être républicain et être pour des programmes universels. C'est
non, parce que
ça marche pas.
Parce que à moins, puis le pire, c'est ça, c'est que est-ce que c'est vraiment parti du peuple? Parce que moi, ce que je cherche, c'est le système qui est arrivé avec ces idées-là. Puis on aura beau dire qu'il a créé, parce que c'est un autre argument aussi, il disait que ça avait créé ouvert 70 000 positions aux femmes, ça a ouvert les portes. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai que c'est garderie à 7 $ qui ont fait ça. C'est s'il y avait pas eu les garderies à 7 $, il y aurait eu d'autres choses qui auraient été implantées. Il y aurait eu des garderies privées avec des systèmes où est-ce qu'on peut, comme ici on fait, où est-ce que on peut faire des retours d'impôts, où est-ce qu'on paye, on a des retours d'impôts, on a des facilités pour payer les services, quoi que ce soit. Mais non, je suis pas vendu à l'idée que c'est encore des garderies à 7 $, parce qu'il y en a plusieurs qui bénéficient de ces services-là et qui ne travaillent pas non plus. Ça fait qu'il faut s'entendre, là, regarde. C'est...
Non, c'est ça. Pour moi, c'est une aberration. Mais j'ai toujours déploré aussi le fait que quand un programme qui est là, gouvernemental, universel, qui existe, tout ce qui était là avant ou tout ce qui pourrait être créé, ben ne l'est pas parce que il y a comme un monopole qui s'installe. Donc tu veux pas mourir en tant que business, donc tu vas pas aller te partir. Bon, quoi qu'au Québec dans le temps c'était illégal, là, tu pouvais pas te partir une garderie privée parce que les CPE existaient. Donc
oui.
Bon, mais c'est
mais on s'entend-tu que demain matin il arrive une catastrophe puis le gouvernement a plus d'argent, on peut plus payer les garderies à 7 $? Ça va pas disparaître, cette profession-là. Il y a des petites cellules qui vont se créer, des groupes de personnes qui vont se mettre ensemble, mais les garderies vont renaître d'un nouveau système, mais ça va renaître. Et il y a peut-être des mères qui vont se mettre entre elles, puis vont dire, bon, regarde, moi, je travaille tel jour, mais tel jour, je vais garder. Tu comprends que il faut arrêter de partir avec l'idée que la solution vient d'en haut et c'est eux qui gèrent le tout, puis en bas, ben nous, on a les conséquences, puis on a les bénéfices, il y en a. Puis c'est un peu la même chose avec la fameuse charte. La fameuse charte, moi, je continue à voir ça comme une espèce de sparadrap qu'on met sur une plaie pourrie. Et j'ai compris, encore une fois, sa pensée quand il disait, oui, il y a du radicalisme. Si on fait rien, ça va devenir comme en Angleterre. Tout à fait d'accord. Et je me demande comment on peut faire pour remédier à ça à partir de maintenant. Moi, j'ai peur que les cellules radicales dans la région de Montréal, là, les groupes extrémistes, là, je pense, sont implantés.
Ben moi, ce que je pense que la meilleure façon de le faire serait de justement de mettre ça à l'immigration, d'arrêter d'aller chercher toujours dans ces pays-là, juste à cause de la langue, OK? parce que, bon, on veut pas changer la culture francophone, mais on change l'image du Québec en le faisant, ce qui est tout.
Non, on change les valeurs. On change exactement. C'est ça, tu gardes la langue, mais tu perds les valeurs. Tu vas en France, maintenant, c'est des Français, mais les Français qui ont des valeurs beaucoup plus radicales, et tu vas dans des quartiers de Paris, des ronds, mais c'est assez aberrant de voir qu'est-ce qui se passe, parce que des endroits tu ne peux plus aller si t'es pas de telle
des religion
ou quoi que ça. Des arrondissements.
Mais c'est ça. Puis ensuite, comme je disais, c'est que après une génération ou deux, ben les gens vont devenir Québécois, dans le fond, ils vont adhérer à la culture québécoise parce qu'elle est là, ils vont aller dans les écoles québécoises et tout ça. Donc, je pense que si on est capable de limiter, ça va peut-être être un petit peu plus long, mais au moins, on n'aura pas, parce qu'en faisant la charte, a radicalisé ces religieux-là. Je ne veux pas juste montrer les musulmans, parce qu'on sait qu'il y en a aussi les juifs. Bon, les juifs aussi sont pointés par la charte. Mais en fait, toutes les religions devraient l'être, là, parce que c'est une charte de
laïcité. Oui, mais on s'entend-tu pour dire que la religion catholique est quasi inexistante maintenant au Québec? Ça, c'est ça l'affaire. C'est que c'est un groupe qui est d'une minorité visible, qui fait peur parce qu'elle est différente des autres. Et c'est ça l'affaire. Mais je me demande juste comment tu fais pour régler le problème avec ceux qui sont déjà établis. Parce que moi, la seule chose que je vois, c'est comme, oui, mais faire
d'accommodement raisonnable, c'est pas compliqué. C'est fini, les accommodements raisonnables. Je veux dire, il n'y en a plus d'accommodements raisonnables, c'est terminé. Vous vivez, on avait déjà des règles préétablies, ben c'est terminé. Je veux dire, on n'amène pas ça un couteau à l'école, c'est non. Je veux dire, ça rentre pas dans une école, ça peut être le symbole de Allah, on s'en fout. Nous, ici, c'est non dans les écoles. Et si on continue vraiment de mettre son pied à terre, t'as pas besoin d'une charte. T'as juste besoin d'avoir des gens qui disent, écoute, on est chez nous et on n'accepte pas ça. Puis, ça se fait pas juste... Et ça se fait pas au niveau du gouvernement. Ça se fait au niveau... Ça se fait entre moi puis toi.
C'est le peuple qui parle et c'est l'éveil. Puis c'est là que je me rallie à son discours de République, parce que c'est là, ça part de la base, ça part des gens qui se mettent ensemble, établissent des règles. Et c'est pas une règle qui est votée dans le sens, c'est pas de la démocratie. Là, on va pas dire on va faire un petit non, c'est un consensus qui a été établi, un peu comme la Constitution américaine. C'est pas des gens là qui ont dit on va voter pour telle loi. Non, c'est ça qu'on établit. Puis à partir de là, on va voir comment les gens réagissent. Puis normalement, étant donné que ça a été fait selon la conviction des gens autour de nous, ben là, ça devrait justement être naturel, ça va se faire. C'est pas une règle drastique comme la charte, parce que moi, la charte, j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui se cachent derrière la charte, mais qui seront pas justement capables de mettre leurs pieds. Ça, puis dire non, ça fait, c'est assez. C'est que là, ils vont juste se revirer de bord, puis dire « Ah, ben là, il y a la charte, fait que là, tu peux plus... » Tu sais, je comprends.
Oui, mais il y a une grosse différence, justement, comme je disais, entre le racisme, puis, tu sais, quand on n'est pas... qu'on est intolérant, c'est pas parce que t'es intolérant que t'es raciste. Je veux dire, je suis capable de t'accepter...
Ben, t'es intolérant à un comportement. C'est le comportement qui est intolérant. C'est ça, moi, j'avais toujours à dire aussi... quand je fais une approche thérapeutique, c'est pas la personne qui est mauvaise, c'est le comportement qui est mauvais. Puis ça veut dire en soi, c'est t'as toujours façon, il y a toujours moyen de changer le comportement.
Mais
changer la personne comme telle, peut-être non. Pas, mais le comportement, oui.
Exact, mais c'est parce que les Québécois présentement, puis on pourrait parler des Français aussi, ils ne veulent pas le dire tout fort parce qu'ils ont peur des représailles.
Exact.
Tu peux pas dire non, hey, toi, ton bon, il y a des façons de le dire, là, mais tu peux pas dire hey, ton drap, là, moi j'accepte pas ça chez moi.
Ben en fait, c'est ça, c'est de dire regarde, moi je suis propriétaire de telle entreprise. C'est parce qu'ils n'ont même pas la possibilité de le faire. Un président d'entreprise au Québec n'a pas le droit de demander à une personne qui l'engage de ne pas porter telle partie, tel attriquement ou quoi que ce soit, tel morceau de vêtement qui pourrait différencier. Fait que là, vois-tu, C'est là qu'on se revire vers l'entité suprême qui se trouve être le gouvernement. Puis eux, c'est eux les méchants. Puis là, maintenant, ben, ce qu'ils vont dire, quand je te dis, ils vont arriver avec la feuille, puis « Regarde, c'est marqué sur le papier, t'as pas le droit, t'as pas... » Tu comprends-tu? Ça fait
ouais, mais c'est parce qu'on dit, qu'on veut pas avoir de symbole au gouvernement. Mais on dit pas que... que le propriétaire de l'entreprise, lui, pourrait dire non.
Il n'aura pas le droit.
Fait que ça va être juste au gouvernement, puis pas pour les élus, ce qui est complètement ridicule. Parce que c'est l'élu, il représente, me semble, il nous l'a dit, l'élu représente le peuple, mais encore là, ça serait bien qu'il n'y ait pas de on le sait tous qu'on n'est pas neutre, il n'y a personne de neutre, là, sérieusement. Y a-t-il quelqu'un qui est assez naïf pour penser? Tu sais, je veux dire, on le sait qu'en arrière, dans sa tête, il y en a plein de croyances, puis tout ce qu'on lui demande, c'est pas de le montrer. Moi, je m'excuse, mais je trouve ça quasiment mieux de au moins, tu as une bonne idée, tu le sais à qui tu as affaire. Tu as une bonne idée.
Tout à fait.
Tu vas à l'hôpital, puis bon, mon point est bon. Quand on disait, c'est les Jeannettes, OK, puis on les a vus partout, les Jeannettes, ce qu'ils disaient par rapport à si je vais à l'hôpital, peut-être que si c'est quelqu'un d'une autre religion comme ça, je ne vais pas être servie de la même façon. Peut-être qu'ils pensent que les femmes sont moins, je sais pas, moins importantes que l'homme, puis ils vont sauver ma vie en deuxième, je ne sais pas trop. Mais c'est ce qu'ils disaient. Puis dans le fond, ça va changer quoi que la personne aille un turban, un voile, une croix? Ça va changer quoi? Ça ne changera absolument rien.
Parce que tu ne changes pas la pensée des gens, tu ne changes pas leur valeur. Au contraire, tu vas peut-être les rendre encore plus, ils vont être encore plus fidèles à leurs croyances et à leurs valeurs, parce qu'ils vont dire, vous voulez faire ça, ben regardez ce que je vais faire en échange. Fait que ça risque de peut-être de radicaliser. Puis comme je disais, c'est quoi le pourcentage des employés dans les secteurs publics qui s'affichent de religion? Je pense que ça doit être un strict minimum. Moi, j'ai demandé une fois à une copine qui est dans le domaine de la santé, est-ce que tu vois des infirmières, des infirmiers qui s'affichent au point de vue là? Non. Il y en a peut-être quelques-uns, mais la majorité, c'est ils arrivent puis ils prennent le chapeau de leur métier, puis ils font ça, puis ça arrête là. Puis c'est pour ça. J'ai pas eu la chance de lui dire réellement parce qu'il y avait beaucoup
de choses. Puis je pense qu'on devrait lui reparler parce que bon, là, on parle beaucoup, je me rends compte qu'il est pas là pour se défendre. C'est pas correct pour le gars.
Oui, tout à fait. Non, mais j'espère, puis comme tu me disais, je sais qu'il l'écoute. Il écoute l'émission. Fait que j'espère juste, c'est pas une attaque, c'est pas, on veut pas le bâcher. Moi, comme je te dis, c'est la première fois que je m'adressais à une personne qui ne pense pas, qui pense une vision pratiquement radicale, différente de la mienne. C'est, moi, je suis contre la charte, lui, il est pour. Où est-ce que j'ai pu avoir une éveil de sa vision sans me sentir agressée personnellement? Parce que, comme je te dis, plusieurs fois, ça, j'allais sur les réseaux sociaux du Parti québécois ou quoi que ce soit, n'importe qui parle de la charte, en l'espace de 3 minutes, tu te fais arracher la tête, là. C'est comme, il n'y a même pas moyen d'argumenter. Tu te fais traiter de pro-islamique, de ci, de ça, puis écoute, j'ai rien dit, puis t'es foutu. J'ai trouvé qu'il avait un discours très intéressant, mais je suis pas vendue à son discours, c'est tout. C'est pour ça que, oui, ça serait intéressant de continuer, parce qu'il y a aussi sa vision du Québec. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant qu'il parle d'un Québec indépendant. Mais j'ai pas compris comment on pourrait y arriver.
Parce que lui, il dit que le Québec, il est très riche, puis qu'éventuellement, dans 10 ans, le Québec payera pour l'Alberta qui, elle, sera en faillite. J'ai hâte de voir ça, là. J'essaye de comprendre, là.
Ben moi, il m'a tenu à Paris, puis je l'ai gardé. Il dit, d'ici 2018, le Québec sera indépendant. Puis j'ai dit, OK, on va regarder ça. Dans 4 ans, selon lui, le Québec sera indépendant. Ben c'est à suivre. Moi, je suis très curieuse de voir parce qu'en ce moment, je sais même pas comment il pourrait être indépendant de la péréquation, indépendant. Tu sais, c'est comme des ados qui vivent dans le sous-sol de chez leurs parents, puis on dit, ah, dans 4 ans, je vais être sortie, je vais avoir ma maison, je vais avoir ma job. Mais ils sont encore dans le sous-sol chez leurs parents, puis ils sont pas prêts à partir.
C'est ça, il y a encore besoin que la maman fasse leur lavage, puis le petit repas, là, tu sais.
Mais c'est pour ça, C'est à suivre, puis ça a continué. Puis, tu sais, l'article qu'il a mis, on va le mettre en lien sur notre page. J'invite tout le monde à le lire parce que c'est vraiment bien articulé. Puis, j'aime beaucoup la notion, je le répète encore, la notion de république. J'aime beaucoup aussi sa vision de dénoncer le multiculturalisme parce que ça, c'est quelque chose, comme j'ai dit il y a deux semaines, le gros problème dans les pays occidentaux, c'est d'avoir permis de faire rentrer cette notion de multiculturalisme qui tue la base fondamentale de toutes les nations. Le Québec, ses valeurs fondamentales sont en train de tomber à cause de cette foutue notion du multiculturalisme. Et je lui donne raison, le Québec n'a aucun pouvoir de faire quoi que ce soit parce que ça fait partie de la charte canadienne de la liberté, j'ai perdu le terme, droits et libertés, merci. Mais tu vois, on s'entend sur plusieurs raisons. J'ai pas mentionné, j'aurais voulu lui parler qu'est-ce que c'était sa vision face au nationalisme, parce que moi, c'est ce que je vois avec la charte. La charte est avant tout un message très nationaliste. Et ça, je trouve ça aussi dangereux que le multiculturalisme. Fait que ça serait à suivre. Puis là, je regarde le temps qui file. Puis je me demande, ben regarde, on a un petit 5 minutes. On va parler, là, c'est quoi, là, les élections qui s'en viennent, là?
Ben oui, j'ai hâte.
Qui sont
ben, c'est
en,
ça,
en ils cours. S'en
viennent. Ben c'est ça. Le...
Qu'est-ce que
le 7 avril, en fait.
Que...
sera le 7 avril, oh, ouais. Qu'est-ce que j'en pense? Sérieusement, j'aimerais tellement pas ça être au Québec parce que je pense, là, que je passerais au moins une bonne demi-heure à l'intérieur du avec mon petit bulletin de vote là, dire bon ok non pas ça, puis je pense que ça finirait par ma petite vache à mal aux pattes parce que
ben c'est ça, c'est parce que regarde, les options sont 99,9% de c'est des partis de gauche, des partis qui sont pro-étatiques. Puis, bon, ben il y a toujours l'option, on n'a pas souvent parlé à notre émission, mais il y a l'option du Parti conservateur du Québec. Mais encore, je sais pas, moi...
Ben, c'est parce que, tu sais, il y a des gens qui vont voter par principe, il y a des gens qui votent par stratégie. Moi, je suis plus du genre à voter par stratégie, fait que souvent, pour faire débarquer un parti, je vais voter pour sa rivale, même si c'est pas mon idéal.
Mais qu'est-ce qui arrive quand les deux rivaux, c'est deux partis que tu veux pas voir au pouvoir, t'es mal prise?
Non, mais c'est pour pas diluer le vote. Il y en a toujours un où tu veux pas. Il y en a tout le temps un que tu veux pas voir entrer plus que l'autre, OK?
Non, je te donne raison.
Il faut que tu sois capable de l'identifier. Puis moi, en ce moment, celui que je voudrais pas voir entrer, malheureusement, c'est le PQ. Puis il y a plusieurs raisons pour ça. C'est une grosse machine. Je veux dire, ils sont capables. On a vu ce qu'ils ont fait. Ils sont extrêmement intelligents.
Ils
sont très manipulateurs. Ils ont pas l'air intelligents, mais ils sont extrêmement. C'est une grosse machine. Donc s'ils décident de faire quelque chose, ça se peut que ça se produise. De l'autre côté, avec la charte, j'en reviens même pas encore. Je veux dire, ils ont été capables de faire passer ça et de diviser la population. Je m'excuse. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Oui. Et de l'autre côté, bon, c'est sûr que t'as plein. Je pense que j'aimerais mieux voir Québec solidaire. Non, au moins, on aurait un beau show, tu sais. Non, mais...
Comment frapper le mur le plus rapidement
possible?
Ben non,
possible. Mais c'est ça. Mais tant qu'à ça, tu sais, aussi bien avancer, tu sais, jusque-là, les libéraux, il n'y a rien à faire. Je veux dire, on les veut pas là. Il reste pas grand-chose. Puis même si le Parti conservateur du Québec était une solution viable, donc qui était très bien organisé puis tout ça, ce que, pour l'instant, j'en doute, voter pour ça, c'est voter vraiment par principe, c'est voter, vraiment voter pour son idéologie, parce que ça n'aboutira pas. Dans le fond, tout ce que ça va faire, c'est diluer le vote, comme voter pour la CAQ, qui est pour moi un parti qui est complètement démoli. On disait qu'on voulait que la CAQ s'associe avec les libéraux pour essayer d'aller chercher des votes. Je pense que
Ouais, c'est incroyable ça, parce que la CAQ est née, ils ont avalé l'ADQ, puis là maintenant ils voudraient s'associer. Tu vois à quel point les gens, comment les partis sont malléables, puis pas dans le sens c'est facile, mais c'est comme des putains là. C'est, ils vont à gauche, à droite, à gauche, puis à coup là, boum, tiens, ok, on est rendu à cette fusion là. Puis au bout du compte, c'est que c'est tellement dilué les idées, les gens ne savent même plus faire la distinction entre les partis.
Ben moi j'ai l'impression que les gens vont aller où est-ce que le succès est rendu, puis même faire fi de toutes leurs idéologies, leurs principes, leurs valeurs et tout ça. Ça me fait penser à Jean Charest qui a switché du Parti conservateur au Parti libéral, bon,
ben oui,
fédéral, provincial, mais même encore là, je veux dire, tu passes d'une idéologie qui est très conservatrice à aller à l'autre. Tu sais, ça fonctionne pas, là, je veux dire, c'est t'es qui toi, qu'est-ce que tu crois? Puis oui, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent changer d'idée, mais savoir pour... où c'est que tu t'en vas, puis d'avoir un programme qui fait du sens, puis qui est pas biaisé parce que tu veux faire plaisir à tout le monde, parce que c'est ce que je vois dans la plupart des partis, c'est ce que je vois en fait avec le Parti conservateur du Québec. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens qui sont à l'intérieur du parti sont beaucoup plus radicales de droite que ce qu'ils veulent démontrer. Ils veulent plaire à la population, donc on leur dit non, vous allez pas perdre vos acquis, vous allez pas perdre vos acquis, puis on leur dit juste, ben... vous allez avoir plus d'argent dans vos poches, chose là.
Moi, je suis pas sûre, mais écoute, ça sera à continuer à discuter. Ça, j'aimerais bien avoir peut-être au cours des prochaines semaines, avant les élections, d'avoir un invité. Je sais pas, de chaque parti, ou bien peut-être surtout du Parti conservateur. Je sais que le chef, ben c'est peut-être un peu difficile. Là. J'ai déjà essayé de rentrer en contact. J'irai pas dans les détails, mais je n'ai pas pu avoir de réponse de sa part. Mais j'ai certains contacts et peut-être, OK, parce que souvent, quand on critique le Parti conservateur du Québec, on se fait dire, ben vous êtes des traîtres, vous n'êtes pas capable de vous rallier, la droite est déchirée. Moi, c'est une question de cohérence. On pourrait essayer d'en discuter, mais entre-temps, il faut arrêter cela et on va se reparler la semaine prochaine.